Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver, hein, comme maintenant chaque lundi, 19h, 20h30. Alors, naturellement, on va encore avoir beaucoup de choses à vous raconter ce soir. On aura une grosse partie foot, naturellement, comme d'habitude, la première demi-heure avec celui qui est déjà là. Hein, c'est notre ami Abou. Bonsoir, Abou, ça va ?
Bonsoir, ça va et vous, Philippe ?
Bon, ça va, à peine forme pour moi. Et puis, ils sont là. On avait promis de les inviter. Hein, c'est Émilie Thuy, avec qui on va parler donc de la maison régionale de la performance Île-de-France du Creps, donc 92. Bonsoir Émilie.
Bonsoir.
Ça va bien ?
Ça va, merci à vous.
Je sais que vous avez organisé un colloque les 22 et 23 novembre. On était en pleine Coupe du Monde de foot, donc c'était difficile pour nous de se rendre à ce colloque, mais on y reviendra naturellement. Je sais qu'il se passe beaucoup de choses, en tout cas, du côté du Creps. Et vous êtes accompagné de Julien Combe, hein, qui est le responsable sportif de la cellule formation et partenaire du prestigieux Stade français de rugby. Bonsoir Julien.
Bonsoir à tout le monde.
Ça va bien, pleine forme ?
Très bien, super, merci de nous accueillir.
Ok, donc on aura l'occasion naturellement de converser avec vous pendant une bonne heure et puis on finira cette émission aussi en parlant basket et volley avec Julien parce que hier il y avait un beau match de basket à Bercy entre le Paris Basket et Lyon Villeurbanne. On va commencer par, et puis on n'oubliera pas aussi le coup de cœur, coup de gueule de notre ami Stéphane Dezenclos aux alentours de 19h40, 19h45. On va commencer donc à bout avec l'actu foot, hein, comme c'est la tradition. Bon, ça n'a pas été une grosse semaine de foot, il y avait marqué surtout par les 16e de finale de Coupe de France. Il y a eu un événement, il n'y a eu aucune grosse surprise, la hiérarchie a été totalement respectée au cours de ces 16e. Ce qui fait qu'il restera probablement, après la victoire du PSG ce soir, 11 clubs de Ligue 1. 4 clubs de Ligue 2 et un club de National 2 qui est Vierzon, qui sera donc le Cendrillon.
C'est ça, pas d'énormes surprises. C'est un peu dommage, hein, la Coupe de France, on aime toujours voir des petits poussés aller assez loin, comme Quevilly à l'époque. Bah là, on n'aura pas d'énormes surprises, mais c'est bien aussi hein, pour la compétitivité. Il y aura des équipes de Ligue 1, de Ligue 2 et ça va batailler dur jusqu'au bout.
Ouais, voilà, donc on va quand même dire qu'il y avait des matchs entre clubs de Ligue 1, entre eux, Marseille qui a battu Rennes 1-0, Toulouse qui a battu l'AC Ajaccio 2-0, et puis victoire de Lens à Brest 3-1. Et puis parmi les scores qui ont été également très très serrés, Angers a battu Strasbourg, mais l'Olympique de Strasbourg seulement 1-0, hein, c'était pratiquement le Cendrillon. Lorient eh bien, s'est imposé à Bastia au tir au but, 1-1 et 4-1 au tir au but. Et puis le Paris FC, club qui nous intéresse, donc, a battu Chamalières 4-0. On attend naturellement donc, le dernier match entre Pays de Cassel, PSG, 20h45. Les tirages au sort à partir de 19h pour ces huitièmes de finale. Donc je pense qu'on aura l'occasion de les donner aussi dans cette émission. Paris Saint-Germain qui justement joue son match parce que le PSG a joué cette semaine un match, disons-le pour le business, hein, contre une sélection saoudienne. Victoire du PSG 5-4.
C'est ça, un match qui est quand même payé 10 millions d'euros. Hein, c'est pas négligeable, même quand on est le PSG. Et c'était un match effectivement contre deux clubs, les deux meilleurs clubs d'Arabie Saoudite, à Riyad, les deux clubs de la capitale, avec Cristiano Ronaldo qui était capitaine de cette sélection, qui a emmené l'équipe saoudienne contre le PSG et qui a ouvert, qui a marqué un doublé, si je ne dis pas de bêtises, qui a ouvert son compteur en tout cas avec en Arabie Saoudite.
Ouais. Donc si je comprends bien, Messi a battu Ronaldo.
Si vous comprenez bien, Messi a battu Ronaldo sur le match, mais Ronaldo a battu Messi en nombre de buts.
Voilà, c'est ça. Émilie, ça vous intéresse le foot ou pas ?
Oui, bien sûr.
Ou vous pensez que ça prend trop de place par rapport à des sports comme les vôtres ?
Non, je pense que tout sport a sa place. Oui. Moi, j'aime bien également regarder le foot. Pas que le foot, hein, le rugby, le volley, enfin voilà, tous les sports tous les sports individuels. Ouais. Après, c'est vrai que c'est pas comparable. Hein. Si on compare le karaté et le foot, on est à des années-lumière.
Mais c'est vrai qu'on est bon dans tous les sports. On l'a vu encore sur le mondial, hein, où on a failli donc aller chercher une troisième étoile. Mais le basket, le hand, il y aura peut-être une bonne surprise la semaine prochaine du côté du hand. Le rugby aussi, puis donc le volley champion olympique, c'est vrai que les sports collectifs français brillent.
Exactement. Je pense qu'en termes de sport collectif, on a pu le démontrer, notamment à Tokyo, qu'on excelle au niveau international.
Trois titres olympiques.
Exactement. Ouais. Donc, c'est magnifique. Après, plus particulièrement, par rapport à la question initiale, le karaté, on est un sport amateur comparé à des disciplines qui sont professionnelles. C'est pour ça que je vous disais, c'est pas comparable. On n'est pas dans la même dynamique,
mais ça ne vous empêche pas de vous intéresser
Bien évidemment, bien évidemment.
D'accord. Julien, vous, l'homme du ballon ovale,
oui.
Ça vous intéresse un peu le foot ou pas?
Oui,
du
oui complètement. Oui, moi, bien sûr. Je suis un supporter de l'équipe de France, donc
c'est bien. C'est bien.
Non, on est content, heureux que ça gagne. Voilà, ça met de la compétition dans tous les sports aussi collectifs, donc c'est top.
Très bien. Alors, on va continuer donc ce chapitre foot. Donc, c'est vrai que c'était une semaine assez calme, à bout, excepté donc cette Coupe de France.
Il n'y a pas eu grand-chose. C'était une semaine un peu de repos. Après, c'est bien aussi pour les joueurs qui sortent quand même d'une Coupe du Monde, là. Mais c'était une semaine assez calme. Après, la semaine d'avant, il y a eu deux matchs dans la semaine.
Justement, on va en parler parce qu'il n'y avait pas de Ligue 1 cette année, cette semaine. Hein, mais par contre, Marseille qui a battu la Coupe Rennes en Coupe de France.
Donc, on parle de Marseille
quand même. Fait quand même de la Coupe de France un de ses objectifs.
C'est ça.
Après son élimination en Coupe d'Europe.
Après son élimination en Coupe d'Europe. Merci de le rappeler, Philippe. Oui, c'est toujours important pour pour les auditeurs. Marseille qui a la possibilité, en tout cas, d'aller chercher cette Coupe de France. Marseille qui est l'une des meilleures équipes, selon moi, et pas que selon moi, selon les observateurs, même El Hadji à ma gauche, à qui je ne vais pas donner la parole, mais qui est totalement d'accord avec moi. Qui est totalement d'accord avec moi. Marseille, qui est une des meilleures équipes de l'Hexagone et qui fait de la Coupe de France son objectif. On rappelle, l'OM n'a pas gagné de titre depuis 2010. Donc forcément, c'est un objectif important. Quand il ne vous reste qu'un match par semaine, quand vous n'êtes plus en Coupe d'Europe, comme vous l'avez rappelé, c'est important d'aller chercher ce titre. Et un club comme Marseille se doit de gagner des titres importants.
Et puis, on en parlait la semaine dernière avec El Hadji, qu'on salue. Hein. Donc, on va aborder la deuxième moitié de championnat. Maintenant, Paris Saint-Germain donc, est champion d'automne, même si c'est en hiver. Mais Marseille peut aller chercher une place européenne quand même.
El Hadji, salut bonsoir. Philippe. Ouais, bonsoir Philippe. Ouais. Bien sûr, Marseille peut aller chercher une place européenne, même si j'y crois très peu. Voilà. Ils sont quand même, il y a Lens qui sont assez solides, deuxièmes, qui sont assez solides et qui ont 4 points d'avance, je crois, sur Marseille. 2 points d'avance sur Marseille, c'est quand même beaucoup, je crois pas à bout. Voilà. Parce qu'il y a Rennes aussi qui sont juste à côté, qui sont coude à coude. Du coup, je pense que, moi en tout cas, on verra bien. Et même la Coupe de France, je pense pas qu'ils iront la chercher.
Pourtant, c'est dans les objectifs. Hein. Bon, c'est dans les objectifs. La victoire contre Rennes, elle est logique et méritée. Hein. 1-0, victoire logique des Marseillais sur le match.
Oui, victoire logique des... Voilà, les Rennais qui sont privés de Terrier. Qui sont privés de Terrier, c'est un gros poids offensif. C'est le meilleur buteur de Rennes, tout simplement. Le meilleur buteur et le meilleur passeur. C'est l'un des meilleurs buteurs de Ligue 1 la saison dernière. Là, ils sont passés de lui. C'est très difficile sans lui. Mais ils vont recruter bientôt Karl Tokoué Kambi.
Oui.
Voilà,
oui,
ça parle de près.
Oui, bah oui. Le local.
Voilà. Et du coup, je pense que... Rennes privée de Martin Terrier qui a quand même battu le PSG, c'est important de le rappeler.
Oui,
parce qu'il nous dit que Rennes sont privés de Martin Terrier. Ça les a pas empêchés de battre le PSG.
Oui, et paradoxalement,
donc Marseille fait une performance.
Et paradoxalement, Paris reste jamais très bien face à Rennes. Hein. Il y a des exemples dans le passé.
Bruno Genesio d'ailleurs, qui est l'entraîneur qui a battu le plus de fois l'équipe qui a battu en tout cas depuis l'arrivée des Qataris en 2012 avec 5 victoires. Mmh. Et quand il a dit, il croit pas à une place européenne pour Marseille cette année. Quand il parle de place.
Pas dit une place européenne.
Vas-y.
Non, parce que t'as dit européenne. On parle bien de Ligue des Champions. Et Ligue des Champions, pour rappel, c'est deuxième et troisième place. Troisième place, il part en barrage. Mmh. Aujourd'hui, dire que Marseille n'est pas un prétendant à l'Europe, c'est une hérésie. Quand vous êtes une équipe qui vient de gagner ses 8 derniers matchs, que vous n'avez plus qu'un match par semaine, que vous avez un des meilleurs effectifs de Ligue 1. Igor Tudor qui bat tous les records, c'est l'entraîneur qui a glané le plus de points au 21e siècle avec l'Olympique de Marseille. Quand il y a une équipe comme ça, on ne peut pas dire que ce n'est pas un prétendant. Pour moi, Marseille, et je vous le dis Philippe, sans m'en cacher, pour moi, Marseille n'est pas un prétendant à l'Europe, c'est un prétendant au titre même. Je pense que c'est quelque chose d'accessible.
Je pense que là, vous commencez à partir dans des idéologies très... je pense, voilà, ça se passe jusqu'à j'en perds mes mots. Ça se passe dans sa tête, pas autre part. On l'a bien vu hein, contre Tottenham. Vous n'avez même pas accroché une place de troisième. Vous imaginez ou pas? Vous avez perdu contre Tottenham, match aller, match retour. Dernière action encore, vous perdez en plus vraiment lamentablement. Vous êtes vraiment la honte de la France. Vous faites honte à la France. En tout cas, sur la scène européenne, vous faites honte à la France. On vous a vu en Ligue des champions, vous avez pris 0 points. Là, vous avez une avance considérable. Juste un match nul vous permet d'aller en Ligue Europa. Vous n'arrivez pas à... Déjà, normalement, le match qui était à votre portée, vous ne gagnez pas le match. En plus de ça, vous n'arrivez même pas à tenir un match nul à domicile. Vous arrivez à vous faire prendre un but à la dernière seconde dans le temps additionnel chez vous. Et vous êtes éliminé de toute compétition européenne. La seule chose que vous allez jouer, c'est la Coupe de France. Vous jouez le jeudi soir sur France 3. Je ne sais pas, excusez-moi, mais voilà.
Ça tire à balles réelles. Hein
là, c'est pas gentil. Oui, là, c'est souvent, là, c'est un jeu. Hein, c'est
la Coupe de France est sur beIN Sport. Ouais. Et pour clore ce sujet, ouais, ouais. Philippe, il y a Elage depuis tout à l'heure qui dit vous. Je suis journaliste, Elage. Je ne suis pas supporter de foot. Je ne sais pas de qui tu parles quand tu dis vous. Quand tu dis non, mais parce que je parle de Marseille, parce que je parle d'un des meilleurs clubs de France, une équipe qui est sur 8 victoires d'affilée. Il n'y a pas mieux là en termes de statistiques, à part Lens, et ouais, même Lens qui a fait un match nul. Donc non, il n'y a pas mieux là en termes de série. En France, le PSG fait pas mieux vu qu'ils ont perdu contre Rennes. Lens fait pas mieux vu qu'ils ont fait match nul. Donc c'est Marseille qui est pour l'instant une des meilleures équipes de France.
En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on va avoir toute la deuxième moitié de saison pour pouvoir en parler chaque semaine.
Ça va être quelque chose.
Hein. Disséquer, puis décortiquer tous ces matchs. En Ligue 2, tiens, justement, on en parlait la semaine dernière avec LAG, hein, parce qu'on parlait de Saint-Etienne. Bah, Saint-Etienne était allé gagner 1-0 à Niort. Sochaux a été battu par Caen 2-1, ce qui fait que finalement, c'est le Havre qui est très largement en tête, hein, qui vire aussi en tête. En Ligue 2 avec 42 points, devant Bordeaux, deuxième 33, troisième Metz 31, quatrième Sochaux, Grenoble 30 points, le Paris FC est neuvième donc avec 27 points, donc ils sont effectivement en milieu de tableau, hein, comme on le dit chaque semaine. Et par contre, pour la descente, Rodez 17e avec 19 points, 18e Saint-Etienne 18 points, 19e Niort 17 points et 20e Nîmes, 16 points, ils vont peut-être s'en tirer, hein. On en parlait,
moi, je le disais, Saint-Etienne. Ils étaient encore à 3 points à 6 points. Là, ils sont à 3 points, mais ils étaient encore à 6 points. Et je le disais, moi, je vois Saint-Etienne se maintenir. Je pense que c'est... Voilà, j'ai envie de vous dire, c'est pratiquement impossible que Saint-Etienne ne se maintienne pas. En vue des matchs même, on voit les matchs, etc. Vers le début de saison, il y a eu pas mal de cartons rouges, ce qui les a pénalisés. Même un match, ils ont pris 4 cartons rouges, c'était vraiment inédit. Mais je pense que là, ils commencent à redonner des couleurs et ils font plaisir à les voir jouer et je pense qu'ils vont se maintenir très fortement.
Oui, Abou, qu'est-ce que tu penses des Verts là? Bon, le Havre qui vire largement en tête en Ligue 2, hein, alors qu'il y a un match entre PSG et Lens en Ligue 1. Donc Saint-Etienne peut s'en tirer?
Ouais, Saint-Etienne peut s'en tirer, c'est une bonne nouvelle pour le club, hein, ça reste un club historique en France. L'arrivée de Gaëtan Charbonnier, ça leur fait énormément de bien. Moi, j'y croyais pas trop au maintien pour Saint-Etienne, mais là, visiblement, Charbonnier, là, il a apporté un second souffle à ce club. Après, on était d'ailleurs avec Eladj cet été à Saint-Etienne, c'est vraiment une ville de foot, c'est des
moi,
gens qui aiment
déjà
vraiment,
qui aiment vraiment ça. Là-bas, je peux vous le dire. Hein.
Ouais. Donc, on souhaite en tout cas au peuple stéphanois que l'équipe se maintienne en Ligue 2 et on espère que ça reviendra vite en Ligue 1.
Ouais, le peuple vert, comme il est appelé là-bas.
Ça, ouais. Un peuple qui était assez agité l'an dernier. Et c'est ça aussi qui leur vaut aujourd'hui d'être en place de relégable, parce que c'est une équipe qui est partie avec moins 6, je crois, en début de championnat.
Moins 3
de championnat pour les débordements causés l'an dernier. Avec ces 3 points en plus, ils seraient hors de cette zone de relégation. Mais moi, je commence à y croire pour le maintien au Stéphanois. En tout cas, je leur souhaite.
Ouais. Pour le Paris FC, en milieu de tableau, bon, ils sont en 8e de finale de coupe. Il y a peut-être un coup à jouer aussi là pour eux.
Ouais, moi, j'y crois pas trop, le Paris FC en coupe.
Peut-être qu'il va y avoir une belle affiche là, pour les 8e.
Bah, je leur souhaite.
Reste des groupes.
Ce serait bien un PSG Paris FC, ce serait bien un derby parisien. Ce serait sympa, pourquoi pas pour le Paris FC. Mais le Paris FC, non, moi j'y crois pas trop en Coupe de France. Et en Ligue 2, c'est fini. Ils iront pas chercher la montée cette saison. En plus, il n'y a que 2 montées cette saison. Il n'y a que les 2 premiers qui montent. Déjà pour Bordeaux, ça va être compliqué. Alors le Paris FC qui est loin derrière comme ça, non, je pense que le coup qu'ils avaient à jouer, c'était vraiment l'an dernier. Mais pourquoi pas l'année prochaine où on repassera à 3 montées en Ligue 1. Mais cette année, pour moi, le PFC, non, ça fera rien ni en Coupe de France ni en Ligue 2.
Alors tiens, je voulais poser à Julien, ils sont voisins du Parc des Princes. Vous avez des rapports avec le PSG? Non, pas du tout.
Pas forcément.
Vous traversez la rue?
Ouais, pas forcément. Non, juste, on accueille les féminines sur le stade Jean Bouin qui font quelques matchs là sur le stade.
D'accord.
Souvent de Ligue de Champions. Essentiellement les rapports qu'on a avec eux. Là.
D'accord. Allez, le National, 18e journée. On va s'intéresser donc à l'Atlético, une nouvelle fois battu par Saint-Brieuc 1-0. Le Red Star a été battu à Villefranche en Beaujolais, donc 3-1. Et Versailles jouera justement la semaine prochaine contre le Puy à 19h30. Donc Versailles-Martigues en tête, 32 points. Le Red Star, 3e, 31. 4e, Concarneau, 30 points. Dunkerque, 5e, 29 points. Et par contre, pour la relégation, Châteauroux, 14e, 18 points. 15e, Saint-Brieuc, 17. 16e, Le Paris Paris, Atlético et le Puy avec 16 points et 18e Borgo, 13 points. On l'a dit, on l'a répété, ça ne s'arrange pas au fil des semaines.
Hein. Bah, ça s'enchaîne, hein, c'est, ça s'enchaîne, mais du mauvais côté, c'est que des défaites. Ils n'arrivent pas à marquer des buts. Voilà, franchement, c'est... Franchement, je ne sais même pas comment qualifier ça. Non, mais honnêtement, franchement, ça me fait du mal. Mais
c'est votre club d'enfance.
Voilà, hein. Mais finalement, ça ne me fait même plus vraiment de mal parce que là, depuis le début de saison, on voit bien, ils ont changé de coach, ils ont essayé. On ne sait pas c'est quoi le réel problème. Je ne sais pas si c'est un problème. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas du tout. Mm-hmm. Voilà.
Abou, toi qui vas souvent voir les matchs.
Ouais, je suis parti souvent voir les matchs et je me suis souvent ennuyé. Moi, je pense qu'il est là le réel problème. Et à un moment donné, l'équipe. Ils ont changé de coach. Moi, j'aurais gardé le coach qui était là.
Valem, Jean-Guy Valem.
Non, pas Jean-Guy Valem. Avant Jean-Guy Valem.
Bon, d'accord.
Fabien Valéry. Moi, j'aurais gardé Fabien Valéry.
L'année dernière.
C'est ça. Ouais. Fabien Valéry qui est parti, qui a fait le choix d'aller à Chambly, là où il y a plus d'argent. Mais moi, j'y croyais au maintien du Paris 13 Atlético. Mais là, c'est fini. Ça ne peut pas se maintenir. Il y a 6 descentes. Ils sont à 4 points du maintien. Et c'est pas qu'ils sont. Enfin, 4 points, c'est rien mathématiquement. C'est 2 victoires et vous sortez de cette zone-là. Mais il n'y a rien. Dans le jeu, il n'y a rien du tout. Ça ne se passe pas. Offensivement, ils n'arrivent pas à marquer de but. Il n'y a pas un attaquant qui met le pied devant l'autre. Donc, ça va être. C'est une saison très compliquée. Et c'est une saison à 6 descentes, Philippe. Une saison à 6 descentes.
Ouais.
Cette saison, c'est 6 équipes qui descendent. Donc, ça va être très compliqué pour eux. Après, c'est un exploit déjà d'être monté en national. Donc, quand il y aura descente, il faudra juste reconstruire le club, repartir, ne pas tout délaisser, continuer à s'appuyer sur la formation parce que les jeunes, ils sont très très bons en national.
C'est un club très formateur. C'est le premier club en Ile-de-France.
Et même les féminines, c'est très très fort. Donc, il ne faudra pas tout dilapider, pour une descente et repartir et essayer de remonter en national. Et on espère un jour les voir en échelon plus haut.
Mais c'est vrai ça va interpeller Julien qui lui est formateur sur le Stade Français. Il y a quand même une bonne pépinière, hein, que ce soit pour le foot ou pour le rugby quand même, hein, Julien.
Bah oui,
vous allez chercher souvent dans les clubs hors Paris. Hein.
Alors hors Paris ou plutôt dans la région, il y a quand même beaucoup de potentiel, hein, que ce soit
pour le rugby,
je pense au foot, mais aussi au rugby. Je pense que après que ce soit le ministère des Sports aussi, les fédérations aussi sont bien organisées aussi parce que c'est légiféré.
Ouais,
il y a des choses qui sont organisées et voilà, il y a un vrai accompagnement qui est fait dès les plus petits et voilà, donc on respecte tout ça et forcément ça marche après.
Accompagnement, c'est-à-dire sportif, mais aussi scolaire. Hein.
Complètement, oui.
Ouais, c'est ça,
obligatoire.
C'est important. Ouais. Allez, ça va intéresser Émilie. On passe aux féminines maintenant. Donc, avec la 13e journée, victoire donc, du PFC au Havre 3-1. Lyon qui bat Montpellier 2-0. Match nul entre Fleury-Mérogis et le PSG 4-4. Et c'est Lyon qui est en tête avec 34 points devant le PSG 33. 3e, le Paris FC, donc 32. Et 4e, Fleury et Montpellier 22 points.
C'est ça, le PSG qui menait 4-2 contre Fleury-Mérogis, pas la prison, le club de foot.
C'était un match
et
au but.
Qui finit
ça joue pas loin, je crois, des Fleury.
Et qui finit en match nul. Lyon sera encore champion cette saison, hein, j'ai envie de vous dire, bis repetita. Les années se suivent et se ressemblent en division féminine. Hein. C'est toujours Lyon qui finit champion. Ça me fait penser à ce film-là, avec j'ai oublié le nom de l'acteur, où il répète à chaque fois la journée, un jour sans fin. Bah, là, c'est la même chose, en fait. Tous les ans, c'est Lyon qui finit champion. C'est un peu plus compliqué pour les masculins. Et c'est un peu plus compliqué pour les masculins, mais les féminines, elles sont là, elles sont costauds. Et je pense même qu'elles peuvent aller chercher le titre en Ligue des Champions, encore une fois.
Mm-hmm. Ouais, après, en temps normal, on dit Lyon, il domine beaucoup l'Europe et le championnat français. Mais attention, parce qu'on a vu le PSG monter en grade. Et là, ça se bat entre le PSG et Lyon. Ils sont quand même à un point. Je pense pas qu'on peut déjà leur attribuer... Non, je ne pense pas. Bon, on en reparlera, mais je ne pense pas. Nous sommes qu'à la 13e journée et je ne pense pas que c'est forcément ils vont forcément gagner.
Émilie, le foot féminin, on en parle de plus en plus. Le rugby féminin, on en parle de plus en plus. Tous les sports, à peu près. C'est bien, on va dans le bon sens.
Bien sûr.
Oui.
Si je disais l'inverse, ça serait compliqué.
Non, mais c'est sûr.
Mais je pense qu'il y a encore beaucoup à faire.
Mm-hmm.
Mais plus on en parlera, mieux ce sera. Parce que c'est vrai que finalement, on a les mêmes exigences, les mêmes impératifs. Donc non, ça fait plaisir de voir que au fur et à mesure des années, on en parle de plus en plus.
Oui, exactement. Sur le sport féminin. Est-ce que l'erreur, c'est pas voir comparer aussi?
Je pense que c'est une véritable erreur. Il n'y a pas de comparaison à faire. On sait pertinemment que dans le football, sur l'aspect budgétaire ou autre, on n'est pas sur les mêmes...
Non, mais même dans le jeu, c'est un peu moins physique.
Oui, mais
c'est
forcément.
Fatal, c'est normal. Hein.
Forcément. Les paramètres de la performance sont pareil, complètement différents.
J'imagine que dans votre sport, le karaté, c'était pareil. Non ?
Forcément.
Oui, bien sûr.
Forcément. Bien sûr. C'est comme si je vous disais... Ouais. On n'a pas les mêmes capacités... quand on est jeune, ça va, oui, on peut enfin, il n'y a pas trop de problèmes parce que sur les capacités physiques, il n'y a pas trop de soucis. À partir du moment où on commence à devenir adulte, forcément, il y a des différences. Ne pas les prendre en compte, ça serait un peu se tromper. Ouais. Ouais. C'est une réalité. Maintenant, je pense que c'est le mot, en fait. Il ne faut pas faire de comparaison. On a nos spécificités, chacun, enfin chaque sexe a ses
c'est
spécificités.
C'est pour ça qu'on aime le sport féminin, voilà, parce que c'est différent, c'est comme ça qu'il faut
faire des différences.
Bien sûr. Allez, mais si on a un peu de temps pour le foot, alors on va parler un peu des championnats étrangers. Hein. Je voudrais qu'on vienne quand même en Angleterre, la 21e journée, Arsenal hein, qui est en tête avec 50 points devant Manchester City. Arsenal qui a battu donc Manchester United 3-2 après la victoire de Manchester United la semaine dernière face à City 2-1.
C'est ça, franchement Arsenal, voilà, ils les ont punis avec Nketiah qui a mis un doublé, le match était vraiment fantastique, il y avait plein de rebondissements avec United qui ouvre le score avec une action parce qu'il se faisait dominer, voilà, il se faisait dominer. Et Rashford qui ouvre la marque, Saka qui lui répond juste après avec la même célébration, voilà, c'était un bon match avec beaucoup d'intensité, ils se sont imposés dans presque au temps additionnel à la 90e minute. Voilà, après, c'est mérité. Hein. Arsenal qui file tout droit vers...
C'est leur année, à nouveau.
C'est leur année, hein, ouais, je pense que là, ça va tout droit. Après, il y a encore je vois beaucoup de journalistes qui disent qu'ils ne pensent pas qu'Arsenal va maintenir la pression ou quoi, parce qu'il y a City juste derrière. Moi, je pense que voilà, c'est tout droit. Ils n'ont même pas besoin de regarder City. Ils sont à 8 points de City. Bon, ouais, à 5
puis,
points avec un match en retard.
À la 21e journée.
Nous sommes à la 21e journée. Ouais. Voilà. Après, même si Manchester City aussi, eux, qui se sont imposés 3-0 avec un triplé d'Haaland. Haaland qui enchaîne les buts, qui est maintenant à 25 buts, si je ne me trompe pas. Mmh. Il est maintenant à 25 buts. C'est encore plus que, j'ai envie de te dire, les 5 dernières saisons où le meilleur buteur d'Angleterre finissait à 23 buts. Du coup, c'est monstrueux ce qu'il fait. Et après, il y a Crystal Palace, Newcastle, 1-0-0 un peu stérile. Il y avait aussi Liverpool-Chelsea. Franchement, c'était un match... moi, je me suis ennuyé. Hein. Je l'ai regardé, mais je me suis ennuyé.
Pour quelle affiche, 1-0-0.
Franchement, quelle affiche. Mais j'ai envie de te dire, Liverpool, ils sont 10e et Chelsea, ils sont 9e. Non, Liverpool sont 9e et Chelsea sont 10e.
Ouais, donc,
c'était le 9e contre le 10e. Ouais, voilà, ouais. C'était un match de Première Ligue, 9e contre 10e. Franchement, c'est ça que ça a montré en tout cas. Il n'y avait pas de réelle occasion, il n'y a pas eu de... Voilà. Bon, à noter quand même, Mudryk, il a fait une très bonne rentrée côté Chelsea. Voilà, Mudryk, je pense, ça a été une très bonne recrue pour Chelsea. Chelsea quand même qui ont enchaîné pas mal de recrues ces derniers temps. Là, je pense que même cette dernière année, je pense que c'est ceux qui ont dépensé le plus en termes de budget. Avec là encore Mudryk, ils ont devancé Arsenal avec plus de 100 millions à la clé. Leicester et Brentford 2-2 sont neutralisés. Et voilà, hein, je pense que l'actualité en tout cas en Angleterre, c'était ça.
Abou, tu as quelque chose à rajouter ?
Non, Arsenal, très bonne équipe. Moi, j'ai regardé le match hier. Oui. Et ce qui est fascinant avec l'équipe d'Arsenal, en fait, c'est que finalement, ils ont des très bons joueurs de foot, mais tu n'as pas de gros, gros joueurs. Dans l'effectif, tu as des équipes meilleures. Manchester United, pour moi, sur le papier, c'est meilleur. Chelsea, sur le papier, c'est meilleur. Après, il y a des joueurs qui doivent confirmer. Mais collectivement, c'est très, très fort ce que fait Arteta. Ils lui ont laissé le temps. Il a failli être licencié l'an dernier. C'est ça, dans le foot, il faut laisser le temps aux gens. Ils lui ont laissé le temps. Du côté de Manchester United, après, quand on refuse de jouer au football, souvent, on finit par être puni. Hier, Eric Ten Hag, il a complètement refusé de jouer au football. Il voulait maintenir ce 2-2. Et malheureusement, il s'est fait punir et c'est mérité pour Arsenal. Et qui je pense, moi je pense qu'ils vont maintenir le rythme. Il n'y a aucune raison en fait que ça baisse, quoi, Arsenal. Et je pense que ça ira chercher le titre et ce serait mérité pour les supporters d'Arsenal qui souffrent hein, depuis des années et des années. J'ai un ami supporter d'Arsenal, c'est dur, hein. C'est compliqué. Donc content pour eux. Après, ouais, comme elle a dit, le disait, Chelsea-Liverpool, bah, il y a peut-être un ou deux ans, c'était une affiche en Première Ligue. Aujourd'hui, le match Chelsea-Liverpool, j'aurais cru voir trois Guingamp, quoi. C'est un match de Ligue 1, un match moyen de Ligue 1. Il n'y avait pas d'intensité, il n'y avait rien du tout. Et c'est dommage. Mais Chelsea, moi, je pense que ça va revenir fort. Attention à Chelsea, parce qu'il y a beaucoup de recrues quand même. Mudryk, 100 millions d'euros, on a vu son entrée, c'est fort au football. Il y a des joueurs là, Wesley Fofana, s'il se remet de ses blessures, ça revient. Kalidou Koulibaly, N'Golo Kanté. Il y a quand même un effectif assez costaud. Après, il faut que Graham Potter arrive à faire en sorte que tout ça aille dans le bon sens.
Alors, en Espagne, après sa victoire en Supercoupe contre le Real Madrid 3-1 la semaine dernière, Barcelone continue assez facilement donc en tête du championnat espagnol. 44 points devant le Real, 41.
Ouais, assez facilement, peut-être ouais, pas quand même. Hein, le match hier, il était un peu compliqué. Ouais. Il y a cette parade de Ter Stegen en toute fin de match qui les sauve du match nul. Donc assez facilement, non. Mais c'est une victoire importante. C'est une victoire, il fallait gagner. Pedri, une nouvelle fois buteur. Et ça permet à Barcelone d'avoir 3 points de plus sur les Real.
Mais attention, Barça revient comme Arsenal.
Moi, j'irai pas aussi vite en besogne, Philippe, même sur Barcelone. Hein. Ça reste une équipe de Ligue Europa. Et on l'a vu l'année dernière, on se disait Barcelone va aller gagner la Ligue Europa. Finalement, ça se fait sortir par Francfort. Et cette saison, il faut voir aussi en Ligue Europa ce que ça va donner.
Oui, après, à noter, Francfort, c'est une équipe moyenne qui ont tabassé quand même match aller, match retour Marseille. Je tiens à le rappeler quand même. Non, mais je tiens à le rappeler. Et je tiens à rappeler aussi que Francfort sont les tenants du titre de la Ligue Europa. Non mais attends, ils sont les tenants du titre de la Ligue Europa ou je me trompe? OK, et ils sont toujours en lice en Ligue des Champions. Et ils sont toujours en lice en Ligue des Champions. Bah quoique on a vu ils ont pris la Ligue Europa. Bref, en tout cas Francfort, c'est ça joue bien au football avec Kolo Muani, franchement c'est un régal de les voir jouer. Ils sont encore imposés 3-0, mais bon ça c'est la Bundesliga, on y reviendra. Ouais. Mais pour revenir en tout cas à Barcelone, non, franchement, dans le jeu, ok, ça joue un peu, etc. Mais franchement, là, Lewandowski n'était pas là. On voit, c'est dur, c'est dur. Voilà, contre Getafe, quand même, qui sont dans les derniers, comme Aboul l'a souligné.
Ter Stegen, à la fin, rien n'est joué en Espagne.
Rien n'est joué. Ils sont à 3 points du Real. Ouais, le Real, hier, qui se sont imposés dans la douleur et dans la difficulté, mais ils sont imposés à Bilbao 2-0, avec un joli but de Karim Benzema, à noter, et une bonne entrée de Toni Kroos qui clôture le match. Quoi. Et on a eu FC Séville aussi. Oh oui, Camavinga. Bah, j'avais fait même une publication spéciale pour Camavinga parce que hier, franchement, il m'a régalé. Il m'a régalé. Franchement, il m'a régalé. Vraiment, Philippe. Hier, j'ai vu Camavinga. Il m'a vraiment régalé. Oui, ah non, il m'a touché. C'était fort. Ceballos aussi, parce qu'on en parle très peu. Et franchement, Abou, Nacho. Nacho. Non, mais je remets le débat Nacho parce qu'il est trop sous-coté. Et on met Carvajal à la place, etc., etc. Mais Nacho, n'importe où. Tu le mets défenseur central, tu le mets latéral droit ou quoi. Franchement, c'est un couteau suisse, le mec. Et il joue super bien. Il est super fort. Il nous a sauvés carrément. Bah, je dis nous, c'est les supporters Madrina. Voilà. Il nous a beaucoup sauvés parce que même hier, il a fait un très, très bon match. Eder Militao, Rüdiger aussi, qui ont été critiqués ces derniers temps, qui ont fait un match solide hier. Et du coup, le Real de Madrid qui sont 4-3 petits points du Barcelone.
Donc c'est jouable. Du coup, malgré leur défaite en Supercoupe la semaine dernière.
Je pense qu'il leur manquait aussi des joueurs. Faut noter aussi les blessés côté Barcelone. Tu vois, Aurélien Tchouaméni au milieu de terrain qui est devenu un patron. On peut compter d'autres encore absents comme... Il y a Lucas Vázquez.
Ouais.
Et je ne sais plus qui d'autre, mais je sais qu'il y a des blessés au Real.
Et De Nazar aussi qui n'est pas revenu, qui n'est pas au top de sa forme. Donc, Nacho c'est fort. Hein. Nacho, c'est un peu le joueur, c'est un peu l'ingrédient qu'il y a à la maison qu'on n'utilise pas trop, mais qui sublime toujours le plat quand on en a besoin.
C'est pas mal.
moi, j'aime beaucoup. Franchement, Nacho, j'aime beaucoup. Et c'est un très bon joueur qui sera jamais une légende du Real Madrid, mais un joueur qu'on aura oublié sûrement d'ici 20-25 ans. Mais pour ceux qui l'ont vu jouer, en tout cas, c'est quelqu'un qui était là.
Voilà, alors là, on va parler maintenant du championnat allemand, qui a aussi entamé sa deuxième moitié de championnat, en finissant donc la 17e journée. Le Bayern qui survole donc les débats à 35 points. J'allais dire que c'est classique, c'est traditionnel.
Ouais, mais il y a quand même match nul du Bayern contre
Leipzig. Oui. Enfin, ils ont une petite avance quand même.
Oui, le Bayern, c'est comme Lyon en D1 féminine, ça va finir champion facilement, année après année, ça écrase tout le monde. Le championnat allemand, pour moi, je le trouve faible. Hein. Le championnat, je sais pas les autres, mais moi, le championnat, je le trouve faible. Je le trouve pas ouf.
Je suis pas d'accord avec toi, Abou. Franchement, je suis pas d'accord. Parce que moi, je regarde les matchs de Bundesliga et franchement, il y a du jeu, il y a des buts, ça joue de part et d'autre. Et on peut pas dire que le championnat, en tout cas, du moins, le championnat allemand est toujours au-dessus du championnat français. Si c'est si tu te posais un peu en termes de comparaison, si, je pense que si. Si tu regardes un peu, hier moi j'ai regardé mon Mönchengladbach avec Bayer Leverkusen, je me suis régalé. Dortmund Augsbourg, il y a eu 4-3, il y a des buts. Cologne Wunderbrem qui est arrivé quand même assez bien dans la course. Cologne là qui prennent une deuxième partie de saison, je pense qu'ils commencent bien. 7-1, c'est fort. Francfort 3-0, sans commentaire. Ouais. Francfort, tu connais déjà. RB Leipzig, ils tiennent en échec. Bayer Leverkusen sans Nkunku qui est blessé aussi. Bayer Leverkusen, ok, ils sont premiers, ils ont 5 points d'avance. Mais attention, Mais attention quand même. Je pense que, attention, même s'il y a Sadio Mané, il y a des blessés, parce que là, ils ont fait un match nul. Je pense qu'ils auront pu gagner le match. Du coup, je pense, attention quand même. Voilà.
Allez, on va finir avec l'Italie, alors que l'Espagne, on était à sa 18e journée. Bah, l'Italie, eux, ils ont fini eux aussi tous leurs matchs aller, avec quand même un événement cette semaine. On a retiré 15 points à la Juventus de Turin, ce qui fait que la Juve, eh ben, ils sont en milieu de tableau.
Hein. C'est ça, ouais, j'étais au restaurant, j'en ai recraché ma soupe. 15 points, c'est énorme, 15 points. Ouais. 15 points pour des transferts supposément douteux. Sauf que moi, pour
ils sont 9e du coup.
Ouais, mais pour moi, la règle, pour moi, elle est fâcheuse, parce que les transferts qui sont mis en cause, c'est notamment l'échange Arthur Pjanic avec le FC Barcelone. Sauf qu'en Italie, il y a une réglementation qui fait que la Juve perd 15 points. Mais le Barça, par exemple, en Liga, on ne leur fera pas perdre ces 15 points-là. Donc, c'est un peu injuste pour la Juve. Et moi, je pense, Philippe, je prends le pari avec vous, je pense qu'ils vont leur remettre leurs 15 points. Je pense qu'il y aura, qu'il y aura des recours, ouais, etc. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'Agnelli s'est retiré de la course. Il a été malin de partir avant que la sanction arrive. Je pense qu'ils vont leur rendre leurs 15 points. Après, hier, ils font un match contre l'Atalanta Bergame 3-3. Au niveau du jeu, pour moi, Massimiliano Allegri, j'allais dire un mot fort là, je réfléchis avant de le sortir. Massimiliano Allegri, pour moi, c'est pas un coach, c'est pas pour le football, c'est pour autre chose. Il y a plein d'autres activités dans lesquelles il serait formidable, mais pour le football, pas du tout. Ça joue pas au foot, Massimiliano Allegri. Il est là pour mettre des mecs derrière, ça bouge pas, il y a rien, il se passe rien du tout. On s'ennuie à mourir à regarder la Juventus, et pourtant, il y a des joueurs performants. Paul Pogba, qui a été recruté là cet hiver depuis août, il a pas joué. Depuis août, Paul Pogba n'a pas joué au football. C'est incroyable.
Donc du coup, c'est Naples, hein, qui survole le championnat, 50 points devant le Milan AC, deuxième avec 36 points. Donc il y a 14 points d'écart, hein.
C'est ça, Philippe, si tu me permets de revenir. Sur la Juventus, ils ont pris les 15 points. Je ne sais pas s'ils vont les récupérer ou pas. Après, comme tu as dit, je ne suis pas contre Allegri. Voilà, Allegri, moi, je pense qu'aussi le jeu est bof. Je pense qu'il met les joueurs pour mettre les joueurs et il n'y a pas vraiment de tactique. Bah, il l'a dit, hein, moi, je n'aime pas les entraînements. Moi, ce que j'aime, c'est les matchs. Je veux avoir que des matchs. En tant que coach, tu ne peux pas, dire ça, quoi. Tu sais que les entraînements, c'est important. Tu travailles les tactiques, etc. Je pense que c'est assez important. Et la Juventus, ils ont fait un bon 3-3. Pogba, il ne joue pas depuis décembre, comme tu dis, depuis qu'on l'a recruté, mais il est blessé. Depuis, il n'est que blessé. Pogba, je sais pas, il vient de revenir à l'entraînement, il fait que de se blesser. Du coup, comment tu veux faire jouer un joueur blessé? Et si tu me permets, après, côté Naples survole le championnat, je pense, ils vont aller chercher la Sudetto, c'est tout droit, je pense qu'ils ont déjà un pied avec la Sudetto. AC Milan qui sont deuxième, pas très loin. Et ouais, la Juventus qui sont neuvième, moi franchement, je trouve ça dommage quand même pour la Juventus, parce que les 8 derniers matchs,
l'Europa
ils enchaînent.
Maintenant, hein. S'ils veulent être européens saison prochaine, contre Nantes notamment.
League. Ouais. Mais bon, ça va être quand même assez compliqué de gagner. Moi, je pense qu'ils peuvent encore accrocher une place européenne.
Malgré le fait qu'ils soient 9e.
Qu'ils soient 9e. Ben, ils sont 9e à 11 points de la Lazio. Quoi. Ouais. C'est beaucoup quand même, mais ça va vite. Ouais. Je pense que ça va vite. Ils sont à peine à la moitié. Ça va vite. 11 points, c'est rattrapable. En tout cas, là, on l'a vu, ils ont enchaîné 8 matchs, 8 victoires sans encaisser de but. Je pense que, attention, ça peut arriver, en tout cas je l'espère.
Très bien, ben messieurs, on va finir ce point foot hebdomadaire avec notre ami Stéphane qu'on est en train d'appeler. Stéphane Dezenclos, bonsoir, du quotidien
bonsoir.
Du sport. Alors Stéphane, le coup de cœur, coup de gueule donc de cette semaine de foot assez calme, hein, quand même.
Oui, c'était enfin, une semaine assez calme. Alors elle a commencé, celle qui s'est terminée hier, elle a quand même commencé lundi dernier par un véritable quand même petit événement. Les Verts, et oui Philippe, les Verts ont gagné un deuxième match de suite après leur succès contre Laval. Les Stéphanois ont gagné à Niort et ça ne leur était plus arrivé depuis pratiquement un an. C'était le 13 février de l'année dernière. Saint-Etienne gagnait 2-1 contre Clermont, à Clermont, après avoir battu Montpellier 3-1. C'était bien sûr en Ligue 1. Alors on espère évidemment que cet immense club historique va réussir à sauver sa place en Ligue 2. Mais on ne peut s'empêcher de se rappeler les commentaires des supporters sur les réseaux sociaux. On s'était fait un peu insulter quand on avait fait un article pour expliquer que le club allait avoir de grosses difficultés cette saison. Alors vendredi, le ciel est tombé sur la tête de la Juventus. Par contre, certains appellent ça le karma. D'autres parlent d'un incroyable coup de tonnerre sur la Serie A. Le club de Turin a écopé de 15 points de pénalité dans le cadre de l'enquête sur les fraudes comptables sur les transferts entre 2018 et 2021. Alors il faut savoir que tout cela arrive après la condamnation de 11 dirigeants, dont le désormais ex-président Andreas Agnelli, qui a l'interdiction d'exercer pendant 2 ans. Alors pour rappel, Monsieur Agnelli était tout simplement un des principaux instigateurs du projet de Super Ligue européenne avec Florentino Lopez, le président du Real Madrid. Voilà en tout cas qui met une énorme, énorme pression sur la Juventus avant son déplacement à Nantes en Ligue Europa. Les Turinois, qui sont désormais 9e à 14 points de la 4e place, n'ont pas le choix s'ils veulent jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Bah, ils doivent gagner la compétition. Alors imaginez s'ils se font sortir par Nantes. Cette affaire, en tout cas, elle inquiète aussi les Marseillais. Rappelez-vous, en janvier 2021, le fameux échange Marley-Hackey à leur jeune joueur de l'OM avec Franco Tongia, des transferts valorisés à l'époque de façon frauduleuse, on peut se poser la question, hein, surtout maintenant, à 8 millions d'euros, alors que ces deux joueurs en valaient à peine 2 sur le marché. En faisant gonfler la colonne des plus-values, hein, c'est là-dessus qu'enquête la brigade financière italienne. La Juventus rassure ses investisseurs, et ce qui peut avoir un impact sur le club qui est coté, donc la cotation en bourse du club. Mais parlons quand même positif, hein, pour l'Olympique de Marseille, c'est leur 8e victoire ouais. d'affilée à l'OM de Tudor contre Rennes, hein, ce week-end en Coupe de France. Donc une série exceptionnelle qui fait peut-être un petit peu tourner les têtes aux supporters marseillais. Ouais. Baladez-vous un petit peu sur les réseaux sociaux et vous apprendrez que l'OM va être champion de France, que l'OM veut gagner la Coupe de France, ou par exemple que Chancel Mbamba est tout simplement le meilleur défenseur central du monde. Sauf que pour les madrilènes, par exemple, hein, toujours sur les réseaux sociaux, c'est assez idée-là, le petit coup de gueule, bah, c'est Militao, le meilleur central du monde en ce moment. Pour les Lyonnais, d'un autre côté, le meilleur milieu de terrain du monde, ou en tout cas même ou pour les Marseillais, puisqu'ils le veulent, n'est autre que le jeune El Arouche, 20 ans, et aucun match en Ligue 1. Bon, de toute façon, ce qu'on sait, c'est que dans le foot, tout va très vite. Regardez Bamba Dieng, par exemple. Il y a 6 mois, il était reproché à Tudor de ne pas compter sur lui, et au club de vouloir le vendre. Aujourd'hui, après 30 minutes ratées, il est vrai, contre Rennes, hein, il est rentré en fin de match en Coupe de France, on veut le jeter comme un vulgaire déchet. On arrive au débat un peu dans cette moulure-là. Neymar s'est-il foutu de nous en étant bon ? Mais écoutez bien cette question quand même. Neymar s'est-il foutu de nous en étant bon ? Je ne sais pas vous, mais moi, rien que cette question, elle me paraît hallucinante, quoi. Je vois mal un joueur se dire « bon, bah, je vais être bon car je vais gagner la Coupe du Monde et puis après, je serai mauvais ». En revanche, oui, peut-être son moral peut être atteint, ce qui provoque une certaine lassitude au moment de se relancer en Ligue 1, mais la Ligue des Champions arrive. Neymar, comme les Parisiens, du reste, ne manqueront pas de motivation. En tout cas, ils en auront la source de cette motivation. Il faut vraiment être un grand malade, et il y en a, hein, Philippe, je ne les citerai pas, pour penser que le Brésilien serait en train de nous faire une sorte de suicide footballistique. Le mieux pour l'instant, à mon avis, c'est de le laisser tranquille. Il a raté un match, oui, à Rennes, il a été très, très mauvais, comme tout le Paris Saint-Germain, mais pas sa saison. Alors, s'il vous plaît, oui, lâchez-le. Alors, je voulais terminer avec le tirage au sort de la...
Ah oui,
de la
en direct.
France, hein, ouais. qui a lieu exactement en ce moment. Donc, tout ce que je sais, c'est que je me suis arrêté qu'il y avait un choc entre Lyon et Lille, qui, au passage, ne va pas plaire du tout, du coup, aux Lyonnais, parce que si la Juve est obligée de gagner la Ligue Europa pour jouer la Ligue des Champions, bah, on a quand même l'impression que Lyon est obligé de gagner la Coupe de France pour espérer jouer une Coupe d'Europe la saison prochaine. Et puis, tiens, là, il y a l'Olympique de Marseille qui vient juste de sortir, donc on va savoir contre qui joue l'Olympique de Marseille. Ah, ça y est, non, c'était... Oui, contre qui va jouer l'OM. Et donc Lyon tombe contre Lille, donc c'est un tirage au sort très, très, très compliqué pour les Lyonnais, donc ils doivent vraiment faire la gueule. Et puis voilà, ça arrive, et voilà, Olympique de Marseille recevra le vainqueur du match de ce soir.
Oh, yes, voilà. Ah bon, oui, 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 voilà. Oui, alors, oui, oui, merci, voilà, oui, oui, comme ça on va leur montrer en direct.
J'entends Elias qui je suis très très content aussi, parce que sur les réseaux sociaux, les Marseillais qui ne veulent surtout pas, quand on leur fait remarquer qu'ils sont peut-être un peu trop sur d'eux, ils ont tous déjà écrit on veut Lyon, Lens ou le PSG. Donc voilà.
En tout cas, on est content d'apprendre que Stéphane a troqué sa carte de journaliste contre celle de supporter du Paris Saint-Germain.
On est
content de l'apprendre, Stéphane, 2 ans.
Non,
on est content
de l'apprendre. Je me cache pas d'être supporter du PSG, mais surtout au-delà de ça, mais même moi je suis content, non pas pour que, même si on, si Marseille a certainement l'équipe qui est la plus intéressante, la plus, avec Lens, l'équipe qui joue le mieux au foot en ce moment, donc c'est super intéressant. Maintenant, je dis juste, bon bah, il le voulait, comme ça, on va voir, puisqu'il le voulait, au moins comme ça sera, ils ont ce qu'ils veulent, quoi. Donc comme ça, on saura exactement ce qu'il en est. Donc ah, non, je me cache de rien du tout, j'essaie d'être objectif, mais je suis supporter du Paris Saint-Germain. Je ne m'en cache absolument pas, ce qui ne m'empêche pas de dire que l'OM, actuellement, l'OM va être favori de ce match-là. C'est clair que là, le match, je ne sais pas quand sont programmés les matchs, mais il est favori, l'OM est favori de ce match, non. C'est évident.
Non, donc, Stéphane, voilà. Stéphane.
En tout cas, ça fera des beaux débats qui feront.
Ouais, tout à fait, ouais.
C'est bien. Allez, juste un petit mot, parce qu'après, il faut lâcher. Donc,
ouais, Stéphane, je voulais revenir, moi, sur Neymar. Franchement, je te dis la vérité, hein, je pense que Neymar, voilà, il se fout un peu de notre gueule, clairement, parce qu'il voulait jouer. Voilà.
Non, attends, excuse-moi.
Notre gueule, il est sur les gens, je sais, je pense qu'il y a des gens qui sont assez fous pour dire ça.
Je suis assez fou, moi, pour dire ça, et je fais partie de ces malades pour dire ça, mais Neymar se fout littéralement la gueule du PSG, et je le dis, voilà, et je le redis, okay, encore, bah ouais, bon, on va attendre encore 3-4 matchs, et tu le verras, toi-même, tu vas pousser ton coup de gueule, ça sera sur Neymar. Bientôt, il y aura le match contre le Bayern, tu verras, s'il n'est pas blessé, tu verras, et je pense que Marseille ne sont absolument pas favoris contre le PSG, hein. Je pense qu'il suffit juste que Kylian Mbappé soit là, et on met 10 bouts de bois avec, ça va gagner.
Très bien, merci Stéphane, voilà, c'est bien, bonne ça soir, promet des belles,
Stéphane.
Des belles semaines, voilà, merci en tout. Merci en tout cas. Émilie, c'est passionné, hein, c'est bien.
Oui, oui, et hein, comme je dis, il y a de la confrontation. Voilà. Sur.
C'est comme ça toutes les semaines.
Non, voilà, mais c'est bien, voilà. J'aime bien.
C'est bien,
mais...
allez, juste on termine.
Parce je suis journaliste, pas supporter de l'OM.
Ouais, ouais, voilà, c'est bien. Il faut jamais l'oublier, il faut toujours prendre de la hauteur, comme on dit dans les écoles de journalisme. Voilà, allez, Julien Barrière, Noël Cordier, Tu t'en vas, c'est la première pause musicale, c'est la variété française. Et ensuite, on parle de la maison, donc de la performance, la MRP, c'est ça, on y va.
Ne sont rien. s'assombrit. Le monde n'est qu'incohérence. J'ai peur de toi, j'ai peur de moi. J'ai peur que vienne le silence.
Voilà, donc après la partie foot hebdomadaire, eh bien on va rentrer dans le vif du sujet concernant donc la Maison Régionale de la Performance, la MRP, Île-de-France, donc avec une de ses représentantes, Émilie Thuy. Émilie, donc on l'a dit, hein, vous êtes à fond investie dans cette mission.
Oui, je suis conseillère au niveau de performance dans ce service. Ouais. On est trois.
Comment on y arrive? Ouais, à en devenir une des principales responsables.
Alors déjà, ça a été créé en 2021, oui, voilà. Puisque c'est une déclinaison territoriale de l'Agence nationale du sport. Oui. Ensuite, moi, je suis professeure de sport de base.
Ancienne championne de karaté, deux fois championne du monde, il faut le dire. Hein.
Oui, ouais, après, bah je suis un peu pudique, donc je ne le dis pas.
Oui, mais bon, faut le dire quand même.
Oui. Ah ouais. Mais ce n'est pas forcément en lien avec titres.
D'accord. Oui.
Mes titres sportifs, mais voilà, j'ai été professeure de sport et ensuite j'ai vu l'ouverture du poste sur lequel j'ai directement candidaté parce que c'est vrai que je suis issue du sport de haut niveau en tant que sportive.
Non, c'est pour ça que j'ai mis l'accent sur le karaté.
Oui, c'est très bien.
Une sportive de haut niveau, donc fatalement, ouais, ça aide.
Du coup, j'avais toute cette volonté de vraiment bifurquer de l'autre côté de cette sphère et être vraiment sur de l'accompagnement et qui plus est au sein de la Maison Régionale de la Performance où l'objectif premier c'est vraiment conseiller, accompagner, faire en sorte d'optimiser la performance des sportifs et plus large le binôme entraîneur-entraîné. Donc forcément j'ai directement foncé.
D'accord. Alors, il y a d'autres maisons de ce type un peu partout en France.
Dans tous les crêpes.
Oui, dans tous les crêpes. L'île de France, c'est relativement nouveau. Michel Godard nous en avait parlé quand il était venu à ce micro.
Ouais. Oui, effectivement. Comme je vous l'ai dit, du coup, l'Agence nationale du sport, c'est tout frais également.
Bien
ça
sûr,
a été créé
sûr,
en 2019.
Ah ouais.
Et à l'issue de cela, ils ont eu cette volonté vraiment de décliner au niveau territorial, donc encore une fois au niveau national, donc dans toutes les régions, des maisons régionales de la performance qui sont implantées dans les crêpes. Ça a été une stratégie nationale et qui ont pour volonté vraiment d'être porté sur différents axes. Le suivi socio-professionnel, la montée en compétences des entraîneurs, l'optimisation de la performance, le paralympique.
Vous êtes combien à travailler donc dessus?
C'est un vrai sujet.
Bah oui.
Pour le moment, on est trois. Donc, il y a le responsable, le responsable régional, on est deux conseillères au niveau de performance et il y a une collègue qui est en appui avec nous.
Oui. Et sous l'égide de FIPON Omnes,
qui est responsable.
Drive tout ça. Hein.
C'est bien ça.
Ouais. Hein. Ancien grand champion d'escrime. Alors, vous êtes, donc, on va parler des vocations, mais vous avez eu un colloque, c'était à Jean-Bois, d'où donc, l'avenue de Julien Combes. D'abord, pourquoi ce colloque et comment s'est fait ce rapprochement entre un sport collectif pro et puis, j'allais dire, le mouvement fédéral?
C'est dans la continuité de notre stratégie au niveau territorial. On est quand même sur le territoire où il y a quand même de... Je pense qu'on ne va pas être modeste. Il y a énormément de ressources humaines, énormément de compétences et d'expériences et d'expertise. Et notre volonté vraiment sur la Maison Régionale de la Performance, c'est de créer ces séminaires pour d'une part créer de la mise en réseau et créer ce maillage territorial et notamment sur des sujets qui les intéresseraient spécifiquement en lien avec ce qu'ils rencontrent dans leur vie quotidienne dans le cadre de l'optimisation de la perf. Là où on en est venu là pour collaborer avec le Stade français, faut le savoir, c'est notre troisième rencontre fait avec le Stade français.
Vous aviez fait l'INSEP, je crois, l'année dernière.
Effectivement, c'est ça où c'était plus axé et porté sur la détection, où on a fait vraiment un focus sur la prise en compte de la psychologie dans la détection. Et Il y a eu cette rencontre avec le Stade français, et notamment en lien avec l'Agence nationale du sport, parce qu'il y a eu une prérogative qui s'est rajoutée, Team Ambition Bleue. Donc Team Ambition Bleue, c'est un dispositif qu'ils ont mis en place pour avoir cette ambition de développer et créer cette cohésion entre les sports professionnels et les sports fédérales. On va pas dire, enfin voilà, plus on va parler cru à les sports amateurs au niveau national. Et nous, on s'est dit, attendez, en Île-de-France, je pense qu'on a, on a beaucoup de sports pro. Pourquoi pas, à un moment donné, essayer de créer cette émulation et cette cohésion pour, d'une part, se rapprocher de notre base de données qui est plus portée et axée sur les responsables et les entraîneurs qui sont sur les structures PPF. Et leurs responsables et leurs entraîneurs qui sont axés sur des clubs professionnels. Donc après, c'est vrai qu'on a été en contact avec Julien, qui d'ailleurs a participé à notre séminaire.
Qui est-ce qui a commencé le premier contact? C'est vous, non?
L'agence.
C'est l'agence, carrément.
L'agence, c'est ça. Via Jean-Marc Lhermey.
C'est vrai.
Oui.
J'avais pris contact avec Jean-Marc à ce sujet-là et il nous a proposé le Stade français.
Bien.
On s'est dit, on fonce. Ouais. Donc du coup, le contact il s'est fait facilement. Je pense que c'est une question d'humain et on chevauche pas mal de valeurs similaires. On avait vraiment cette volonté de créer ces temps de cohésion. On ne visait pas que le séminaire.
Oui,
on voit vraiment sur du moyen et du long terme.
On va en parler. Ouais.
Et du coup, voilà, après, ça s'est fait... au fur et à mesure, il est venu sur nos temps de séminaire. Ensuite, ils sont venus au Krebs. Nous, on est allés chez eux. Ça a été beaucoup de partage d'expériences, beaucoup d'échanges, beaucoup de prises d'informations et ensuite de réflexions collaboratives pour voir comment on pouvait, à un moment donné, se nourrir les uns des autres.
Ouais, alors, c'est très fructueux pour un club comme le vôtre. Club d'abord sport collectif et puis club professionnel.
Oui, complètement. Nous, c'était vraiment un des objectifs, là, comme vous avez noté là, sur mes missions.
Ouais. Voilà, c'est ça.
À la fois, je suis responsable sportif du centre de formation, mais je suis responsable aussi de la cellule partenaire de la formation. Donc, c'est une cellule qu'on a mis en place, en fait, pour développer, promouvoir l'activité rugby au sein des diverses institutions qu'il peut y avoir. Donc, dont le ministère des Sports, l'Éducation nationale, les fédérations la Fédération française. Et donc, on avait la volonté de travailler et d'échanger avec ce réseau-là. Et une des missions, c'était sur la formation de cadres et accompagner aussi les entraîneurs du Stade français et les entraîneurs de nos clubs partenaires. Donc, ça tombait à point nommé. Et on a travaillé dur pour monter ce séminaire qui était vraiment une réussite pour nous. On est ultra satisfaits. On a pu partager sur des thématiques, dont les datas, qui est en ce moment.
On va revenir dans le détail de tout ce qui s'est fait.
De ce séminaire, mais
effectivement.
Donc, non.
Mais après quelques mois, il y a des effets déjà positifs.
Oui, complètement. Ouais. On a été sollicité par la Fédération française de hockey sur glace, par le Pôle France qui est à Cergy-Pontoise.
Bon, c'est des sports co.
C'est des sports co. Et puis un peu combat aussi, le hockey. C'est le Pôle France féminin. Donc, ils sont venus chez nous. On a partagé différentes choses, sur l'accompagnement sportif, mais l'accompagnement aussi socio-professionnel, l'accompagnement citoyen qu'on peut mettre en place. Donc là, c'était très fructueux. C'est un début, je pense, parce qu'on va mettre en place d'autres actions avec eux, sur la formation de cadres et sur l'accompagnement de nos jeunes.
Alors justement, donc on a parlé de la vocation, de son rôle, on va rentrer dans le vif du sujet. Environnement socio-professionnel pour accompagner le projet du sportif, donc son projet de vie, et en dehors de sa carrière, ça se passe comment? Qu'est-ce qu'on fait pour ça?
Alors c'est une vraie question, parce que c'est vrai que lorsqu'on parle d'un sportif, on a tendance à beaucoup être dirigé et axé sur son projet sportif.
Oui. Mais il faut pas laisser tout seul, quoi. Voilà.
C'est là notre rôle, c'est que notre rôle, c'est pas. Alors une fois, encore une fois, je préfère le dire clairement. Notre rôle, c'est pas de faire à la place des fédérations. On travaille en collaboration avec eux, mais c'est d'essayer de trouver des solutions très rapidement pour trouver soit des aménagements scolaires, soit trouver des contrats qui permettraient de les alléger, les soulager.
Avec les employeurs, carrément. Pour certains qui travailleraient, est-ce qu'on essaie peut-être de leur trouver un job et puis, ou alors d'aménager des horaires?
Alors, ça arrive. Ça peut arriver. Encore une fois, c'est les fédérations, parce que je tiens à vous le préciser, il y a quand même des référents qui sont vraiment portés sur le suivi socio-professionnel et qui sont en relation directe avec nous, Maison Régionale de la Performance, pour faciliter la mise en place soit de contrats ou soit pour rechercher des dispositifs appropriés à leur situation. Donc notre rôle, on va dire, c'est d'être là, présent, pour essayer d'enclencher rapidement les choses et trouver très rapidement des solutions pour mettre dans une situation facilitatrice les sportifs. Mmh. Éviter qu'ils soient concentrés, et ça, ça a été du vécu, donc je peux le dire, concentrés sur tout ce qu'il y a autour, sur l'aspect environnemental, mais aussi sur l'aspect scolaire, formation et insertion professionnelle. Mais faire en sorte qu'ils soient réellement concentrés sur l'objectif fixe, si c'est monter sur un tatami, concentrés sur la performance sur le tatami, si c'est courir derrière un ballon pour marquer un but.
Oui.
C'est être concentré sur la performance.
Ouais, c'est ça. Que n'avoir que ça en tête. Exactement. Et être dégagé de tout le reste. Quoi.
Et faire en sorte que bah, nous, acteurs autour, on arrive à trouver des liens, des moyens de travail, de travailler, ce qui est le cas d'ailleurs, pour gérer ce genre de situation.
Alors, Émilie, entre nous, est-ce que tout le monde joue au jeu? Est-ce que toutes les fédérations jouent au jeu?
Aujourd'hui, oui.
Oui,
il y a tout intérêt à jouer le jeu. Il y a tout intérêt à jouer le jeu. Après, la réalité des choses, c'est que la Maison régionale de la performance, c'est très jeune. Comme je vous l'ai dit, ça a été créé en 2021. On va dire que le plus compliqué, ça a été les débuts où on devait aller vers les fédérations pour essayer de se présenter et faire comprendre un peu quelles étaient nos missions. Mais une fois que ça, cette présentation et la compréhension de qui fait quoi et comment on procède, donc les procédures, ça a été top.
C'est là que d'avoir été une sportive de haut niveau, ça aide quand même vis-à-vis des fédérations.
On connaît les exigences liées à la haute performance, ça c'est réel. Maintenant, faut pas s'arrêter. Je suis consciente aussi qu'il fallait pas s'arrêter là, et c'est la raison pour laquelle je me suis formée en parallèle en faisant un master axé et porté sur la haute perf. Donc je pense que ce qui facilite, c'est surtout d'être à l'écoute des fédérations et essayer d'être là en appui pour leur trouver des solutions, leur faire comprendre qu'on n'est pas là pour faire à leur place, mais pour être là en soutien et en lien avec l'Agence nationale du sport pour répondre le plus facilement et le plus rapidement possible à la commande ou à la demande selon le besoin qui est identifié soit par le sportif ciblé, soit par l'entraîneur.
Et pour l'instant, les premiers résultats sont bons? Ça va, les premiers effets, ça va, c'est plutôt positif?
On travaille beaucoup. À partir du moment où on travaille beaucoup et on a beaucoup de demandes, c'est que je pense qu'on est dans le bon. Mais encore une fois, je pense que les résultats, ça sera sur Paris 2024.
Oui, voilà.
On sait très bien qu'on sera jugé sur ça. Maintenant, on met tout en œuvre pour. Ouais. Et...
Alors, j'ai vu que c'était de 2022, depuis Pékin, jusqu'à 2032, Brisbane. Hein.
L'Agence nationale du sport.
Oui, tout ça. Cette ambition bleue, ça va être au moins pendant toutes ces dizaines d'années. Hein.
On est complètement d'accord. Mais nous, les premiers bilans qu'on pourra faire, on ne va pas se mentir et on ne va pas se leurrer. Hein. Ça sera bien évidemment après Paris 2024.
Bien sûr. Alors, l'optimisation de la performance, c'est aussi naturellement la préparation physique et puis mentale, hein, un suivi médical avec des outils qui sont vraiment à la pointe de l'innovation technologique et scientifique. Hein. Ça aussi, c'est important, connaître son corps, savoir...
Effectivement, et encore une fois, notre rôle, c'est pas forcément d'être... Alors nous, on a la chance au sein du CREPS d'avoir un référent, un médecin qui est référent à ce niveau-là. Notre but, c'est pas forcément d'emmener les athlètes au CREPS par rapport à tout ce qu'on a, que ce soit en termes d'équipementier ou en termes de ressources humaines. Bien évidemment, si les sportifs sont à proximité du CREPS, on va forcément leur proposer de venir. Mais on s'appuie sur une cartographie de ressources, donc en lien avec les collègues. Et je mets également le réseau Grand INSEP, parce qu'on travaille encore une fois tous en consortium. On travaille vraiment en équipe pour essayer de faciliter. Et notamment, là, on rajoute une collaboration, le Stade français, pour essayer de répondre aux besoins du sportif et de l'entraîneur. Après, sur les recherches et autres, là, si vous me posez la question là tout de suite, je ne suis pas experte dans le domaine, mais mon rôle et le rôle de mes collègues surtout, puisqu'on a un collègue qui est vraiment en appui dans ce domaine-là, avec mon collègue qui est sur le médecin, c'est de trouver la bonne personne ressource qui serait adaptée à la personnalité de l'athlète, mais également de l'entraîneur, et qui serait le plus adapté aux besoins qui ont été identifiés.
Oui. Rendez-vous compte pour votre sport, qu'est le rugby? Comment on peut progresser grâce à ça, Julien?
Bien sûr.
Il y a plein de choses à mettre en place.
Mentalement, bien suivi, bien connaître son corps.
Mais on a des compétences au sein du club, ça c'est sûr. On a une structure professionnelle avec des moyens qui sont quand même conséquents. Donc on arrive à faire des choses, mais pas tout non plus. Donc c'est important aussi de, d'aller voir ailleurs aussi sur ce qui se passe, les compétences externes aussi. Je vous donne un exemple, en un sport de combat, on a beaucoup travaillé nous avec des lutteurs, donc des experts en lutteurs, eh ben, faut aller les chercher. Si on a des ressources nous au niveau de la région et des personnes qui sont un peu fédérateurs de tout ça et qui seront le point d'attache pour justement trouver ces ressources, nous on est ouvert à tout ça.
Ouais. Et c'est pour ça que les résultats sont bons depuis le début de saison.
Alors je sais pas, il y a de la compétence,
la montée en compétence, c'est l'objectif aussi, hein.
Bien sûr, montée en compétence. Et alors certes, on a l'axe nous qui est plus porté sur les entraîneurs, enfin le staff. Nous, on l'a élargi un peu au niveau régional. On part sur la montée en compétence des entraîneurs et des sportifs entre pairs. C'est vraiment notre objectif sur du moyen et du long terme, notamment par rapport à un dispositif qu'on a créé qui est Héritage Doré et où on crée des temps de formation. Alors, pas de façon protocolaire descendant et autres, mais où plutôt on est plus sur des temps d'échange, des temps de partage d'expérience, des temps de valorisation de bonnes pratiques entre donc, du coup, les entraîneurs et un expert selon la thématique. Et dans un second temps, donc une semaine ou deux semaines après, entre les sportifs qui sont sur les listes ministérielles et un champion. Là, cette semaine, par exemple, on va accueillir Souleymane Sissoko, qui va pouvoir échanger sur la récupération avec 47 sportifs, en sachant que la semaine d'avant, on a échangé avec, on a permis à Mathieu Nedelec, d'ailleurs Julien était présent, d'échanger, de partager sur le sommeil. Avec des entraîneurs
aussi,
qui sont
ciblés. C'est important, le sommeil, la récupération.
C'est une des choses importantes.
Oui. Et ça, pour l'instant, à l'heure actuelle, ça concerne combien de sportives et sportifs?
On est sur le territoire le plus dense.
C'est pour ça que je pose la question.
On est sur 2000 et quelques sportifs qui sont sur les listes ministérielles. Et sur les entraîneurs, je ne vais pas me tromper, on est au-delà de 200 et quelques sur le territoire. Après, les chiffres exacts, je vais pas me... J'ai peut-être une idée, mais je préfère pas...
Et vous travaillez en concertation avec les autres régions, les autres maisons de la performance? Parce qu'on l'a dit, en Ile-de-France, c'est récent, ça date de 2021, mais est-ce que vous avez aussi des échanges, des partenariats avec les autres...
Oui, forcément. Oui. Et c'est là où, encore une fois, on a notre plus-value. Les sportifs, ils s'entraînent... Il y a des sportifs qui peuvent s'entraîner à la fois, ça a été le cas avec un collègue en Nouvelle-Aquitaine et qui, le week-end, viennent s'entraîner en Ile-de-France. On mutualise, on échange, on partage les informations, ce qui fait que c'est plus facilitateur pour nous de trouver, par exemple, un préparateur physique qui soit adapté aux besoins du sportif en Nouvelle-Aquitaine et qui soit adapté également en Ile-de-France. Donc forcément, le lien, il y en a. On est... quasiment toutes les 2-3 semaines en relation ensemble pour faire remonter tout ce qui se passe sur notre territoire. Donc oui, c'est très important, je pense.
Et puis, il y a aussi l'accompagnement des Paralympiques pour avoir une pratique plus globale de leur sport au quotidien.
Ça tombe bien, parce que j'étais référente sur le sujet.
C'est pour ça que je vous pose la question.
Ça tombe bien. Oui. Et la réalité des choses, c'est qu'aujourd'hui, les besoins là qu'on a, enfin le recensement des besoins qu'on a pu avoir est très fortement axé et porté sur dans ce domaine-là, le paralympisme. Et je pense que on voit réellement la plus-value qu'on peut avoir sur. Là, on est sur un profil de sportif qui est complètement différent du sportif
bien sûr,
lambda.
Bien sûr.
Il a ses exigences, il a sa manière de fonctionner qui est totalement différente. Ils sont plus axés et portés sur des structures isolées, moins sur sur des structures ou établissements publics. Donc oui, forcément, notre rôle, il est d'autant plus important de répondre très rapidement à leurs besoins, que ce soit, et limite même les interroger sur leur fonctionnement. Ça a été le début de la guerre, entre guillemets.
Ah oui,
ça a été de les interroger.
Ils sont vraiment livrés à eux-mêmes au début.
C'est ça.
Ah oui.
On est un peu. Alors oui et non, parce que les fédérations, elles ont pris à bras le corps quand même le sujet. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on va pas se mentir, il y a beaucoup plus de moyens pour les aider, les accompagner. Ça, c'est une réalité.
Tant mieux.
Et c'est top, parce que l'agence a mis le paquet pour pouvoir les accompagner et faciliter leur préparation en vue de préparer Paris 2024. Donc aujourd'hui, C'est vrai qu'il y a beaucoup à faire, mais finalement, nous, on est là pour avoir échangé avec les collègues et notamment avec l'agence. On voit que ça apporte ses fruits. On fait le bilan 2021-2022. On voit qu'il y a une réelle progression, il y a de réels bienfaits.
Ah oui. Et puis là aussi, on en parlait avec les féminines tout à l'heure, mais l'image, elle change aussi, le regard, il change aussi sur les Paralympiques.
C'est beaucoup plus médiatisé. Oui, oui. C'est beaucoup plus médiatisé et ça c'est bien, même si encore une fois il y a encore beaucoup à faire. C'est comme les féminines, hein, je vous le disais, il y a beaucoup à faire. Maintenant c'est en voie de progression, mais il faut continuer, je pense, sur cette pente ascendante et pas partir sur une pente descendante.
On a eu l'occasion de suivre la journée olympique au parvis du Stade de France fin juin, et on a eu l'occasion de suivre aussi la journée paralympique à la Bastille. Énorme succès, hein.
Oui, bah, c'est sûr.
Ouais, ouais. C'est là qu'on voit que ça change, que ça évolue.
Je pense que ça a bien évolué. Maintenant, il y a encore des bons à faire en avant. Ouais. On est dans la bonne direction et il faut poursuivre, je pense, nos actions et poursuivre vraiment dans cette bonne direction.
Et puis, Julien, il y a quelqu'un qu'on connaît bien, c'est Riyad Salem. Il est champion d'Europe de rugby fauteuil.
Oui, complètement. Ah, voilà. Vous faites bien de parler parce qu'il y a une semaine, j'étais dans son club, dans son association. Mmh. On a fait de l'initiation en fait, pour nos jeunes sportifs. Du rugby fauteuil. Donc, il nous a accueillis. Super, c'était top, franchement. C'est dans notre projet un peu sport santé et inclusion. Il a participé aussi à notre séminaire là, avec le CREPS et la MRP sur l'échange, le partage entre les athlètes et les champions. Référence.
Alors justement, là, sur ces deux jours, quels ont été les thèmes abordés, prioritaires? Beaucoup de champions sont venus, combien? Une quinzaine, hein, je crois.
8 champions.
Dont Jérôme Fernandez.
Florent Pietrus, Miaro, Nodia Alem Miaro, Camille Aiglon. Il y a eu du beau
et
monde. Il y a eu Kumba Diallo, Pierre-Henri Azago,
Ryan
Chapuis. Et le dernier, là, sur lequel on vient de parler, Riyad Salem. C'est vrai que ça faisait du beau monde et ça faisait une diversité de champions qui permettait de vraiment... Enfin, on part du principe que chaque champion a son expérience, chaque champion a sa manière de procéder. C'est un peu individuel à ce niveau-là. Donc, ça permettait vraiment aux jeunes d'échanger, de partager sur l'entraînement invisible.
Et puis, c'était aussi un retour aussi des jeunes dans les discussions, les tables rondes qu'on avait. Ouais. C'était plutôt les champions qu'on avait qui avaient manqué, en fait, dans leur jeune carrière ou leur début de carrière.
De tous ces moyens, de tous
ces conseils, de ces grands champions. Donc, c'était vraiment très enrichissant.
Alors, on a développé effectivement donc la collaboration entre le sport pro et puis fédéral, notamment les moyens et la façon de travailler. Ça a été un des thèmes.
Ouais, voilà. Alors, c'était la thématique générale, c'est comme vous l'avez dit, les passerelles entre le sport professionnel et le sport fédéral. Une des fortes thématiques, c'était les data, qui en ce moment, on en parle beaucoup. Donc, c'était un vrai échange de partage avec des experts, mais des vrais experts ultra compétents, que ce soit de la Fédération française de rugby, du taekwondo, un peu externe aussi, l'intelligence artificielle, on voulait ça aussi. C'était ultra intéressant. On a fait connecter un peu tous ces gens en posant des questions avec des vues un peu différentes de chaque personne. Et ça fait avancer un peu le débat aussi sur la prise de conscience des data, mais la relativiser aussi.
Exactement. Voilà.
Parce qu'il faut rappeler que c'est au service de l'optimisation et de la performance. C'est le but. Mais à un moment, il y a peut-être des limites à parfois.
Oui, mais à force c'était tellement en vogue qu'il y avait. Ça partait en tout et un peu. Il y en avait qui partaient vraiment sur les data, mais ils ne savaient pas trop comment y aller, où y foncer, mais il n'y avait pas forcément d'objectif. Donc là, le matin, c'était important que les experts, encore une fois, ce n'était pas briefé, mais c'était important que les experts fassent comprendre que finalement, les data, s'il y a un objectif, c'est bien de l'utiliser, mais si finalement, ce n'est pas cadré et il n'y a pas de stratégie vraiment de définie, à un moment donné, vaut mieux peut-être rester avec son crayon et sa petite base de données. Peut-être que c'est plus optimal pour la performance.
L'œil du maquignon.
Exactement.
Ouais, donc, des actions communes, peut-être, justement, dans ce sens, au niveau des data, par exemple.
Alors, les datas, maintenant, oui. c'est juste de mettre en relation des ça. Personnes. Hein. Je pense que là, on va avoir des demandes aussi. Nous, on a quand même des ressources au sein du club. Donc, on accueille, bien sûr,
et
les...
quelles ressources français, quand même.
Quelques ressources, ça s'est vraiment développé. Donc, nous, on s'est avec plaisir d'accueillir tous les cadres hein, de l'Île-de-France bah, pour échanger, partager. Et je pense qu'on va avoir quelques demandes.
Et ça commence à prendre, hein, parce que moi, j'ai été sollicité par la Fédération française de hand qui me demandait les contacts du data scientist. Martin Lenné, la fédération aussi de taekwondo. Donc franchement, c'est en train de prendre. Il y a eu le judo également qui était intéressé pour faire du partage d'expérience. Maintenant, c'est intéressant de voir, parce que nous, on donne les contacts, mais c'est intéressant de voir après avec Julien où ça en est sur les échanges et ce développement de réseau.
Oui, parce qu'il faut que ça suive, il faut que ça continue après.
Oui, c'est ça.
Mais... Et donc, pendant deux jours, ça a été très fructueux comme échange, comme...
Oui. Bah, l'objectif, encore une fois, de ces séminaires, c'est pas de faire un séminaire descendant.
Oui.
Donc, il n'y a pas des intervenants qui viennent et qui vous parlent pendant trois heures.
Il faut les rendre vivants. Hein,
c'est que d'entrée de jeu, nous, l'objectif, c'était vraiment de faire en sorte que sur chacune des tables rondes, il y ait des entraîneurs de disciplines différentes et qui puissent, pendant une durée d'une heure ou enfin pendant un temps imparti, échanger sur... leurs expériences, leurs connaissances, leur savoir-faire. Il n'y avait pas de sujet tabou, fallait vraiment foncer, il n'y avait pas de bonne ou de mauvaise réponse. L'objectif vraiment, c'était d'échanger et de partager. Et à l'issue de cela, on enchaînait avec une intervention de plusieurs experts qui étaient présents sur l'estrade et qui partageaient et valorisaient leurs bonnes pratiques. Mmh. Et ensuite, on faisait matcher le public et les experts. Mais on n'était pas sur... là où il y a eu ce qui nous était remonté, c'est que sur ces temps de séminaire, il n'y avait pas assez de temps de partage avec les experts. D'où Héritage Doré derrière, c'est plus facile de partager avec les experts. Enfin, il y a un temps plus prononcé pour aller dans ces temps-là. Mais c'était un peu leur montrer le format que... nos différents dispositifs qu'on va développer derrière auront pour la suite.
Alors, il y a déjà une quatrième journée qui va arriver l'année prochaine. On a déjà l'idée de comment ça va se passer, qu'est-ce qu'on va essayer de faire et où on va aller.
Alors, ça ne sera pas l'année prochaine.
Ah bon ?
Non, la quatrième rencontre, ça sera au mois de juin et ça sera à Vers-sur-Marne.
Ah oui, où il y a l'aviron là-bas. Voilà, c'est là.
Canoë-kayak, on va pas mettre canoë-kayak. Voilà, il faut les mettre, c'est les cousins, mais il faut les mettre ensemble.
Voilà.
Ouais. Mais ça va se passer là-bas.
Oui. L'année prochaine, d'accord.
C'est ça. Okay. Et on sera sur. C'est en cours de construction et je ne suis pas pilote sur le projet. C'est d'ailleurs Sandra Adimbourg et Lynn, le médecin dont je vous avais parlé, qui sont pilotes sur ce projet. Mais ça sera sur les spécialisations précoces des sportifs. Après, à voir sur la manière dont ça sera orienté et sur le format que ça va prendre. Mais il ne faut pas s'attendre à ce que sur le format, en tout cas, il n'y aura pas forcément de similitude.
Bah oui, non, mais
l'objectif, c'est que...
Non, mais
voilà.
Le but, c'est qu'il n'y en ait pas, justement.
Exactement. C'est essayer de rajouter à chaque fois ce petit plus à chaque rencontre.
Oui, quelque chose de nouveau.
Voilà, pour attirer et faire en sorte de continuer sur cette cohésion, l'envie et l'engouement des entraîneurs de venir sur ces séminaires se rencontrer.
Voilà, il vient de nous rejoindre, je vais le saluer, c'est Valentin, ça va ?
Ça va Philippe, ça va très bien.
Ça t'inspire un commentaire, ce que tu viens d'entendre là ?
Moi je trouve ça super intéressant,
bien sûr.
Très complet.
On prépare Paris 2024.
De plus en plus, et là c'est vrai d'avoir tous ces champions, tous ces athlètes qui sont présents pour discuter, parler, donner leur vision de comment ils s'entraînent, comment ils abordent les grandes compétitions.
Plusieurs sports différents, professionnels.
Ouais, c'est ça. C'est... Équipe, et puis même dans les sports collectifs, c'est des sports collectifs, mais en vrai, l'athlète se retrouve face à lui-même et c'est à lui de gérer son corps, sa progression et de se mettre en valeur pour l'équipe. Donc non, moi je trouve ça super intéressant et je connaissais pas trop le karaté, je connais, mais j'en ai pas trop fait. Moi j'étais plus team judo, mais j'en ai fait pendant 2 ans du karaté. C'est vrai que c'est un très bon sport et c'est
kata ou combat.
Combat.
Ah ok.
C'était moins dans le kata, c'était pas trop mon truc, mais après j'ai vu le judo et je sais pas pourquoi pendant 5-6 ans je me suis mis dedans. Mais c'est super intéressant et c'est passionnant de savoir que de plus en plus, même avec les data, l'intelligence artificielle, c'est vrai qu'on en parle de plus en plus dans le sport. Et
ça fait peur quand même.
On est surtout dans un monde sportif où on est de plus en plus même peut-être trop sur les datas, à regarder tout ce qui est stats, alors qu'il y a aussi l'humain et il y a aussi le ouais, corps, la
aussi,
santé.
Je pense que ça rentre en ligne de compte, l'humain.
Oui, non, mais c'est sûr.
C'est hyper important. Hein, donc,
c'est la base. Et ah c'est oui, pour ça qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'individualisation d'entraînement personnalisé pour essayer de se rapprocher au plus près des spécificités du sportif. Prendre en compte, parce que chaque sportif est différent.
Bien sûr, c'est ça.
Donc, tu vois, Philippe, tout à l'heure, tu me parlais d'homme-femme.
Oui.
Mais ça me gênait un peu parce que j'ai cette tendance à parler de l'individu en tant que tel, plutôt que par rapport au sexe. Et chaque individu, finalement, a ses spécificités, que ce soit sur l'aspect physique, mental et autre. Et c'est là où on est vraiment basé et fléché. Mais sur les datas, on te rejoint complètement. Et ça a été notre réflexion, d'ailleurs, avec Julien, de créer vraiment un temps spécifique sur les datas au séminaire qu'on a géré ensemble, pour essayer de casser un peu cette vision qu'il y avait de forcément partir tête baissée dans des datas qui partaient, des données qui partent dans tous les sens. Donc voilà.
Qu'on ne sait pas forcément ce que ça veut dire, surtout qu'on était dans un monde où dès qu'on avait un exemple de sportif, il fallait le calquer sur cet exemple sur les jeunes, les équipes de jeunes ou quoi. Et maintenant, on est plus, je trouve que les datas vont peut-être venir à aider plus à développer l'individu en tant que tel, ses performances, à calculer ce qu'il lui peut faire, ce qu'il est capable, et là où il est bon, ça sera plus complémentaire. Donc j'espère qu'on va plus s'orienter sur cette vision-là.
Allez, la deuxième pause musicale, Starmania, j'aurais voulu être un artiste, et puis après on va finir cette dernière partie d'émission.
J'ai du succès dans mes affaires, j'ai du succès dans mes amours, je change souvent de secrétaire. J'ai mon bureau en haut d'une tour, d'où je vois la ville à l'envers, et je contrôle mon univers. Je passe la moitié de ma vie en l'air, entre New York et Singapour, je voyage toujours en première. J'ai ma résidence secondaire dans tous les Hilton de la Terre. Je peux pas supporter la misère.
Moi, es-tu heureux?
Je suis pas heureux, mais j'en ai l'air. J'ai perdu le sens de sens des affaires. J'ai réussi, j'en suis fier. Au fond, je n'ai qu'un seul regret. Je fais pas ce que j'aurais voulu faire.
Qu'est-ce que tu veux, mon vieux? Dans la vie, on fait ce qu'on veut, pas ce qu'on veut.
J'aurais voulu être un artiste, faire mon numéro. Quand l'avion se pose sur la piste, à Rotterdam ou à Rio, j'aurais voulu être un chanteur pour pouvoir crier. J'aurais voulu être un acteur pour tous les jours. Un artiste.
avoir le monde à refaire, pour pouvoir être un anarchiste et vivre comme un millionnaire, et vivre comme un millionnaire. J'aurais voulu être un anarchiste.
Voilà, et puis comme je le dis chaque semaine, l'émission elle sera naturellement réécoutable très rapidement en podcast, hein, comme toutes celles donc, de cette saison, puis de la saison précédente. Julien, c'était une grande première, hein, ce colloque.
Oui, oui, complètement. Hein. Je pense que Émilie va me confirmer, mais voilà, un séminaire comme ça, organisé conjointement avec l'ANS et un club de rugby, un club professionnel, et sur quoi de rugby, je pense que c'est unique en France. Et voilà, on est très fiers de cet événement, nous, Stade Français, voilà, cette collaboration qu'on a pu avoir avec la MRP.
Je rejoins Julien, bien évidemment.
Alors Julien, je voudrais qu'on parle un peu de rugby quand même. Ça va bien pour l'instant, le Stade Français. Il y a un challenge européen qualifié. Mm-hmm. Et puis il y a une deuxième place au championnat du top 14. Pour l'instant, tout va bien.
Bah, ça va très bien même. Là, justement, on est très contents, très heureux. On a eu des moments un peu compliqués ces dernières saisons. Et puis là, bon, voilà, il y a une nouvelle histoire là, qui s'ouvre pour nous. Donc on est très satisfaits avec un vrai état d'esprit aussi, des joueurs, du staff. Tout le monde va dans le même sens. Donc on est
Vous êtes un club formateur, on voit maintenant, un peu plus. Hein.
C'est l'objectif du club aussi, hein, c'est former des bons jeunes. Comme on a dit, sur le territoire, il y a beaucoup de clubs qui forment bien leurs joueurs. Donc nous, on récupère tous ces joueurs et l'objectif, voilà, c'est qu'ils deviennent professionnels au Stade Français. C'est notre mission, c'est ma mission. Et ça commence un peu à jouer sur notre équipe professionnelle, donc on est content.
Oui. Le titre, le bouclier de Brennus, le dernier c'est 2015, c'est envisageable cette année?
Bien sûr. Il faut viser haut. C'est le Stade Français. On est là pour faire du très haut niveau. On veut des titres. Notre propriétaire veut des titres. Veut des titres. Et voilà.
Donc il n'y a pas le choix que de faire des titres.
Exactement.
Et un jour, peut-être, bon, excepté la finale, mais avoir des matchs au Stade de France comme du temps du président Guazzini.
Ah, c'était la belle époque, ça. Franchement.
C'est vrai qu'il a quand même réussi à mettre le rugby en valeur à travers tous les événements autour. Oui.
C'est un monsieur du rugby. Hein. Oui, oui. Je pense qu'il a fait développer d'une façon exponentielle le rugby. Et voilà, il en est là aussi grâce à lui aussi. Quoi.
Et puis, il y aura une Coupe du Monde en France. Ça va être un énorme événement pour tous les clubs, pour toutes les retombées.
Oui. C'est souvent, de toute façon, après ces Coupes du Monde et ces grandes rencontres, là,
il y a un afflux de pratiquants qui arrivent.
Exactement.
Je crois que c'est arrivé en 2007.
Oui, complètement. Les licenciés de partout, des petits jusqu'aux plus grands. Donc, c'est un peu ça. On veut ça. Maintenant, il faut savoir les accueillir, les accompagner, les encadrer. C'est ça, la mission aussi.
Mmh. Et surtout, c'est l'équipe de France, les championnes du monde. Hein. Elle a jamais été.
Il n'y a pas si, elle va être championne, bien sûr, on ne sait jamais,
il n'y a aucune certitude, mais bon, elle est favorite, hein. Elle a perdu 3 finales, le foot a perdu sa finale, donc ça serait bien que le rugby gagne, quoi.
Elle va gagner.
Voilà, c'est bon, très bien. Émilie, investie à fond maintenant dans ce rôle, hein. Le karaté c'est derrière maintenant?
Non, ça reste toujours, c'est comme un premier amour, hein. Non, le karaté fait toujours partie intégrante de ma vie. Et maintenant, c'est vrai que j'ai raccroché sur le sport de haut niveau. Je pense que j'ai assez donné. Et que maintenant, on est plus axé sur du plaisir, en tout cas en termes de pratique. Et également sur la partie encadrement, entraînement des jeunes générations.
C'est quand même incroyable que votre sport il n'était qu'une année olympique.
Ah ben je vous retourne. Oui, après ça a été une vraie déception.
Champion olympique en plus.
C'est vrai. Ça a été une vraie déception, d'autant plus que faut le dire, hein, on est au niveau international, on est quand même, on fait partie des trois plus grosses nations.
Oui, c'est ça qu'il faut.
C'est donc c'est vrai que le Japon attendait beaucoup de la France à domicile pour maintenir le karaté en tant que discipline olympique. Ça a été un vrai coup de massue. On va pas se mentir, ça a été une vraie déception, et surtout pour les générations à venir et pour la beauté du sport, parce que je pense qu'on est on a beaucoup de licenciés, les exigences,
c'est le Graal, les jeux, hein, donc naturellement.
C'est l'ingrédient qui manque au palmarès d'un champion du monde ou d'un champion d'Europe. C'est vraiment rentrer dans cette famille olympique. Pour tout sportif, c'est primordial et c'est quelque chose qui reste quand même dans un coin de sa tête. Donc maintenant, vous dire qu'on n'est pas déçu, que c'est pas grave, ça serait mentir. Ouais. Ça serait mentir. Je pense que si toute la famille du karaté derrière entendra ce que je dis, oui, forcément, ça a été un peu un deuil. Après, on ne s'arrêtera pas là. Je pense qu'on va continuer à se battre sur les années à venir. Ouais. Et on verra bien ce que ça donne. À nous aussi, à la jeunesse, d'essayer de faire bouger les choses, mettre encore plus en valeur notre sport. Que ce soit sur l'aspect pratique, mais aussi politique, qui est quand même un enjeu.
Et puis ce qui est fou, c'est que Paris arrive, 2024 arrive, il n'y aura pas de karaté, quoi.
Hein ? Ah, là, on appuie encore plus. Non, c'est une réalité. On ne va pas se mentir, c'est une réalité. Et comme je vous le dis, le plus dur, et surtout pratiquants français qui connaissent un peu les exigences au niveau international, on fait partie des deux premières nations au niveau mondial. Et quand on se dit qu'en France, il y avait cette possibilité d'avoir des sélectionnés et des qualifications dans toutes les disciplines, on se dit qu'il aurait pu y avoir des médailles importantes en France, dans notre pays et à Paris.
Bah oui.
Maintenant, malheureusement, c'est derrière. Mmh. Et encore une fois, faut arrêter de rester sur des échecs. Il faut essayer d'avancer et de voir comment on peut renverser la donne. Sur du moyen ou du long terme pour revenir au jeu.
C'est fou de garder des sports où on n'est pas très bon.
Surtout une Olympiade en plus.
Oui, une Olympiade et surtout
avec une médaille d'or. Faut le rappeler.
C'est ça qui est dingue. Ouais,
on a le niveau, ça. On fait partie des trois meilleures nations dans ce domaine et de ne pas avoir le karaté, ça a été longtemps débattu avec Monsieur Estanguet. Mais bon, apparemment, ça n'a pas été retenu. On a préféré le skateboard, donc chacun fait ce qu'il veut, mais il y a quand même des trucs un peu bizarres et c'est vrai que c'est décevant. Et même pour moi, je regarde pas énormément de karaté, mais je trouve ça dommage pour des champions et des athlètes qui pouvaient espérer d'avoir la médaille olympique, qui est le Graal, qui est le plus haut niveau. Mais apparemment, non, on leur prive de ça. Il y a beaucoup de choses, de toute façon, dans ces JO, même avec les joueurs de basket, tout ça, c'est compliqué, mais on espère que ça se déroulera malgré tout bien.
Voilà, alors justement, le basket, tiens, on y vient.
On y vient.
Il y avait une belle semaine sur Bercy. D'abord, il y avait le match NBA, rappeler donc la victoire des Chicago Bulls devant les Detroit Pistons, 126 à 108. Bon, il y a eu des beaux dunks, il y a eu des beaux paniers, mais il n'y a pas eu de suspense pour le match. Hein.
C'était, voilà. Je l'avais dit la semaine dernière et je l'ai dit il y a un mois, c'était le dernier de la Ligue contre un 10e, 11e. C'était le ventre mou de la Ligue des Chicago Bulls, qui était très bon la saison dernière contre Détroit, qui a été choisi parce que sûrement il y avait Kylian Nice, qui est le meneur français, qui jouera sûrement en équipe de France au JO 2024, notamment. Non, c'était logique. Hein. Après, il y a eu du spectacle parce que ça reste du basket américain, donc c'est un niveau... C'est plus du spectacle qu'en France, sauf qu'en France, c'est beaucoup plus physique. Et en Euroleague, c'est beaucoup plus physique que la NBA, même si on a l'impression qu'ils font 10 kilos de plus, qu'ils sont musclés. Mais c'est beaucoup plus du spectacle. Et c'était intéressant à regarder, mais bon, je ne vais pas vous mentir que le dernier quart, je ne l'ai pas regardé.
Hein, c'était sur Canal.
Sur Canal,
clair,
qui avait l'exclusivité.
Normal, ils avaient l'exclusivité. C'est pour ça qu'ils ne sont pas venus sur les autres médias.
Mais non, ils avaient l'exclusivité, mais c'est vrai que... Après, il y a des médias qui ont été accrédités quand même. Ça, j'aurais juste le dire. J'ai vu quelques accréditations passer pour Picsou Magazine. Alors, j'ai savoir Picsou Magazine, qu'est-ce qu'ils vont. J'aimerais avoir le magazine où on parle des Chicago Bulls.
Peut-être un propriétaire américain de Picsou Magazine.
Peut-être, non, c'est Picsou Magazine français en plus. Donc c'est doublement, on est sur des choses apparemment. Bref, mais c'était on s'y attendait. Je pense que c'est surtout un match pour faire de la pub de la NBA comme au Mexique, comme à Londres, comme la NFL fait par exemple à Londres. Donc c'était. On s'est bien amusé, on a vu Pierre Gasly.
Est-ce que ça sert le basket? Est-ce que des clubs comme le Paris Basket...
Oui, ça, oui, parce que du coup, le Paris Basket a pu après profiter de cet engouement. On a mis de la lumière sur Paris, même s'il y en a déjà énormément. Paris, ça reste la capitale et ça reste une des capitales la plus visitée au monde. Et non, ça a mis de la lumière sur le basket, sur les fans en fait de basket et NBA qui chaque année sont là, on les connaît, j'en faisais partie, j'en fais encore un peu partie. À 3-4 heures du matin, tu regardes un Lakers Pistons, c'est dur, mais t'étais fan de NBA donc tu regardes. Et là, c'est vrai que d'avoir ça à une heure européenne et d'avoir un match, même si c'est pas des gros matchs à chaque fois malheureusement qui sont choisis, comme les matchs de Londres, ça met quand même de la lumière dessus.
Est-ce que ça donne envie à des enfants de pratiquer, c'est ça?
Moi, je pense que... Je dirais oui, ouais. mais non, dans le sens où, quand on voit que la place minimum c'était 230 euros et 5 minutes plus tard c'était 434 euros.
1500 euros les places tout près du parquet là. Non, mais c'est
oui,
vrai,
1500
c'est
euros.
Ça.
Bah, c'est des places que par exemple Charles Leclerc, Pierre Gasly, Stéphane Ocon peuvent se payer. Oui, c'était invité, mais certains.
Il y avait tout gratin du sport, la Villeni.
C'est moins cher au stade Jean-Bouin si vous voulez venir voir des matchs de rugby.
Non, mais après, pour dédouaner la fédération, c'était géré par la NBA.
Oui,
mais
oui, c'est ça.
Donc voilà, je préfère.
Et puis pour tout vous dire, on a essayé de les avoir à ce micro.
Non, mais c'est normal, voilà. c'est complètement normal.
C'est une franchise, c'est...
Après, c'était vraiment le spectacle qui sont venus payer.
Canal en
Non, mais surtout que c'est la NBA, là on parle pas de pro et tout, ça n'a rien à voir. Là, c'est des millions et des milliards d'euros brassés. Même là, ils se sont fait une recette, j'imagine même pas. Mais c'est vrai que ça. Alors, ça donne. Je pense que c'est surtout un match pour les gros fans, parce que moi j'ai vu les comptes fans de T3, de Chicago Bulls, des joueurs, des Rosanne, tout ça, qui ont payé très très cher pour avoir leur place, qui ont vécu leur moment. Pour eux c'est un rêve, mais c'est vrai que c'est compliqué d'amener ton enfant, si tu es payé cosmique, à un match NBA alors que c'est son rêve.
Pour toi aussi, non, Chicago là?
Ah bah j'aurais adoré Chicago, même si t'es n'importe quelle équipe. C'est vrai que c'est génial, mais chaque année quand on voit les prix, 434 euros pour en plus une catégorie derrière le panier dans le fin fond de l'Accor Arena. Ça donne pas envie, quoi. Alors que, et puis quand en plus on regarde le match, c'est pas le match de la saison ou de l'année, bah ça fait mal, quoi.
Bon, en tout cas, un armistice hier à Bercy, avec le Paris Basket qui a été malheureusement battu par Lyon-Villeurbanne 86-69.
Bah, c'est
l'équipe de Tony Parker.
Tony Parker, oui, effectivement. Bah, la magie de la NBA, on a enchaîné une semaine. Basket, ouais. Paris qui était sur une défaite face à Tel Aviv en Euroleague, et ça a continué face à Lyon. Gros match pourtant, bonne entame de match. L'aréna qui était plein pour le Paris Basket, donc ça fait plaisir de voir ça.
C'est bien délocalisé comme à Roland Garros, c'était plein aussi.
Oui, l'aréna, il y a un deuxième match prévu en avril, et c'est vraiment pas mal. Ils ont essayé de faire, c'était l'American Night. Donc c'est-à-dire que tous les fans avec leur maillot NBA pouvaient venir, donc on a essayé de continuer un petit peu comme j'ai fait quelques heures avant la NBA House aux Invalides. On essaye de garder un peu ce côté NBA basket, et les gens ont très vite vu que c'était pas le même niveau que la NBA, c'est beaucoup plus physique, et ça s'est vu, car on est quand même sur le Paris Basket et Lyon qui n'a pas mis plus de 3 ou 4 3 points sur une quarantaine. Donc ça a été très physique, très dur, et malheureusement Paris a craqué dans les 5 dernières minutes. Jusqu'à la mi-temps, ils avaient un ou deux points de retard. Ils étaient là, ils étaient même devant dans le troisième quart, et début des 5 dernières minutes, ils prennent un plus 15. Dans la tête, et ça fait mal. Et pourtant Lyon n'était pas en grande réussite, mais bon, malheureusement Paris s'est incliné. Donc on espère là deux défaites de suite, on espère que c'est pas une descente qui va continuer petit à petit, parce
alors que justement le Paris Basket, un peu comme le Paris FC, sont en milieu de tableau, sont 11e avec Gravelines Dunkerque à 44,4. C'est Monaco qui mène avec 83,8 devant Boulogne le Valois 17,8. Boulogne le Valois donc qui
domine, ils ont un monsieur qui s'appelle Victor Wembanyama, ils ont un très bon meneur, ils ont un entraîneur qui s'appelle Vincent Collet
qui a gagné à Fos-sur-Mer ce week-end 83-80.
Oui, ça c'était avec un effectif comme ça et un entraîneur aussi primé que Vincent Collet qui coach l'équipe de France chaque été. C'est même étonnant de ne pas les voir premiers, mais c'est pas si étonnant que ça quand on connaît le niveau de Monaco. et Monaco qui se construit de plus en plus, même les clubs de foot ou la région se développe de plus en plus. Et là, c'est vrai que très très beau, très très bonne saison de Monaco.
Il manque le rugby à Monaco.
C'est ça, ouais.
Il y a,
bon,
y a, bah, y a du seven, il y a du
seven, mais je vais à la place à Monaco, c'est pas.
Pourquoi des virgules, sur des points là ?
Oui, alors ça on s'est toujours demandé. On demandera, ils calculent en pourcentage de basket. Ça demandera d'ailleurs.
Parce que c'est en.
En
NBA, ils font pas ça. Et c'est vrai qu'au basket, parce que je crois qu'il y a eu des matchs qui ont été aussi. Il y a des fois des matchs qui sont été reportés où c'est en fonction du nombre de points. C'est très compliqué à comprendre. Mais...
Par exemple, Nanterre, ils sont 13e, ils ont 38,9% hein, de points après leur défaite à domicile face à Dijon.
Je crois que c'est aussi 68. Calculé avec leur nombre de pourcentage de victoire et de probabilité.
C'est un des paradoxes. Il faudra un jour qu'on demande ça à des gens du basket.
Il faut demander à la Ligue nationale de basketball pourquoi.
Mais demandez au référent, à la MRP, si vous voulez, pour avoir des informations.
C'est vrai. Comme le basket, par exemple, NBA, c'est en 12 minutes.
Oui.
Les cartons.
Les cartons sont en 12 minutes.
Ça fait quand même 8 minutes supplémentaires. Hein. Donc,
c'est pour ça qu'on a plus de spectacles, qu'on marque des points. Mais c'est que aussi, la NBA, il y a aussi un truc, c'est que. Au basket, en général, dès qu'on touche un peu la main ou la jambe ou tout ce que tu veux, c'est une faute. Mais c'est vrai qu'en Euroleague, on a gardé cette époque des années 90 de la NBA qui malheureusement ne sont plus là aujourd'hui, où ça se rentrait dedans et au moins c'était physique. Que c'est vrai que la NBA, on essaye de moins blesser aussi. Ça va très vite au panier. Quoi.
Alors, le Paris Basket battu. Et puis le Paris Volley aussi battu, 17e journée, battu à domicile par Tours 3-1. Plessis Robinson a été aussi battu sur le même score. Donc Tours est en tête avec 42 points. Là aussi, le Paris Volley, ils sont en milieu de tableau, 9e avec 22 points. Et c'est le Plessis Robinson qui est avant-dernier, 13 points sur 14 clubs.
J'ai l'impression que chaque semaine,
c'est vrai,
on a eu deux semaines de bonheur. On s'est dit
clubs,
Paris Basket, Paris Volley, Paris FC, 13 Atletico, je crois, match nul.
Qui était battu, mais
on disait qu'il manque que c'est une semaine parfaite pour les clubs parisiens. Et là on est sur.
L'Atletico battu,
sur des
Paris
Gobelin,
Atletico, parce que c'est ça. Donc battu, le Paris Basket battu, le Paris Volley battu.
Après Paris Basket, pour leur décharge, ça reste quand même une très bonne équipe. ASVEL, Lyon, même s'ils ont perdu beaucoup d'effectifs, je vais avoir le nom, Victor Wembanyama qui était à ASVEL la saison dernière
et
qui va partir en NBA, qui serait le premier choix de la draft sans aucune hésitation. Et Paris Volley là encore une défaite. Ils avaient perdu face à Montpellier juste avant. Et comme là, Paris Basket, c'est une ou deux victoires. Faut faire attention parce que c'est vite, ça s'enchaîne vite tout ça parce que. Surtout le Paris Basket qui perd en Euroleague, qui rentre à la maison. Ils ont joué, je crois, 3 matchs en l'espace d'une semaine. Tu vas à l'Accor Arena, c'est ton soir, logiquement. Et comme à Roland-Garros, ils avaient fait une bonne performance. Et là, malheureusement, ils se font clairement écraser dans le dernier quart. Il ne faudrait pas que ça continue parce qu'il y a quand même faut quand même rester dans ce ventre mou de 19e place où... Ça va devenir très très compliqué à la fin de saison.
Bon, Julien, vous allez des fois voir les matchs des autres clubs parisiens. On vous invite, le hand qui sont venus aussi ici, le basket, le volley, ça vous arrive entre clubs, j'allais dire parisiens.
Ouais, on n'a pas trop le temps, j'avoue, les week-ends, on est un petit peu occupé. Ben là, par exemple, il y a la Fédération française de hockey, suite à cette entrevue, qui m'a invité à la finale de la Coupe de France.
C'est les Français volants à Bercy, c'est pas loin, on les a reçus aussi.
Ouais, donc, la finale de la Coupe de France, qui a lieu donc, à Bercy dimanche, donc je vais y aller. Voilà. Mais non, j'essaye.
Bon, ça va, votre stade n'est pas à vendre et il n'y a pas de fusion avec le Racing.
Non, c'est fini tout ça, c'est l'histoire ancienne.
Ouais. Émilie, vous, je suppose qu'on on vous invite souvent aussi sur ces grandes
manifestations. C'est normal. Et d'ailleurs, j'y étais
à l'NBA.
À ce spectacle. Oui.
Comment vous l'avez trouvé ?
Hein ?
Comment vous l'avez trouvé ?
Pour moi, c'était étonnant. C'est un vrai spectacle. Le mot, c'est celui-ci, c'est que c'est un vrai spectacle et pour nous, Parisiens. Qui ont connaissance des événements montés au niveau français. Là, on est vraiment dans ce côté américain. C'était vraiment pour une personne qui... Enfin, j'ai jamais participé à cet événement, mais là, c'était incroyable.
Très bien. On va finir un petit mot avec Sébastien Ogier, quand même, qui a
gagné
le premier grand monument de la saison au niveau des rallyes. C'est le Monte Carlo. 9e victoire pour Ogier, comme Sébastien Loeb.
C'est ça, il égalise Sébastien Loeb avec son coéquipier Vincent Landais. C'est leur deuxième rallient ensemble. Et c'est déjà une victoire pour lui à 31 ans. Il a dit dans une interview accordée à l'équipe il y a deux jours que c'est exceptionnel et qu'il était fan de Sébastien Ogier. Il est maintenant à côté de lui. C'est son copilote et c'est une histoire incroyable. Et le rallye Monte Carlo, moi qui viens du sud, je peux vous dire que c'est une très belle région. Et là, on redécouvre la région. C'est fini. Ouais. Mais c'était un très bon rallye, mais il y a eu beaucoup de soucis, notamment avec les spectateurs, de plus en plus. Que ce soit le Paris-Dakar, que ce soit la Formule 1, que ce soit le rallye Monte Carlo ou même les épreuves de rallye en général, les spectateurs sont très dangereux. Au Paris-Dakar, on a eu un décès d'un spectateur qui s'est mis derrière une dune. Malheureusement, respect à lui et sa famille, mais c'est débile de faire ça. Parce que derrière une dune, quand la voiture elle arrive, t'as aucune chance. Et au rallye Monte Carlo, pareil, il y a des spectateurs qui ont décidé de mettre de l'eau pour que ça fasse une couche de verglas. Et plusieurs pilotes se sont fait avoir parce que c'est pas prévu sur le programme. Et d'autres étaient au bout d'une épingle et ils ont pris. Il y a une voiture qui dérape, ils prennent des vidéos, ils s'amusent. Mais pour la prochaine fois, si la voiture c'est à 2-3 cm, elle vous fauche, c'est terminé. Et on dirait que c'est la faute du pilote alors que il y a des règles que la FIA devrait mettre un peu plus en place. Il y a beaucoup de pilotes qui se sont plaints justement de ça et qui disent qu'ils ont demandé à la FIA, vous attendez quoi? Vous attendez un mort, un nouveau mort peut-être? Que ce soit un pilote ou que ce soit un spectateur pour qu'on fasse quelque chose. Donc voilà, mais Sébastien Ogier, 9e victoire, donc on va rester sur du positif. C'est magnifique pour le français et puis on a une génération dorée qui est petit à petit en train de partir et j'espère qu'il y aura d'autres pilotes, de jeunes pilotes qui vont prendre la suite.
Très bien, merci Julien, rendez-vous la semaine prochaine. Il y aura encore d'autres grandes actus sportives entre le basket, le volley, il y aura le hand, on espère avoir une bonne nouvelle, et puis il y aura le tennis, ça s'est moins bien passé, mais enfin bon, voilà.
Oh, ça va quand même.
C'est la vie du sport, voilà. Merci en tout cas, merci Émilie.
Merci à vous.
À très bientôt. Voilà.
Pourquoi pas, avec plaisir.
Voilà. Merci donc Julien, à très bientôt aussi. Juste un petit mot, je voulais avoir une pensée, et pour Christophe Dominici. Et pour Thierry Gilardi qui a été votre vice-président.
Complètement.
Il aimait autant le ballon ovale que le ballon rond. Voilà. Non, et merci à Jason d'avoir été aux manettes ce soir. Bonne soirée. On se retrouve la semaine prochaine avec notre ami Guy Misselin. Il est avec nous pendant le mondial. Eh bien, il viendra un peu parler de lui et de sa carrière la semaine prochaine. Allez, bonne soirée à toutes et à tous. On finit avec Earth, Wind and Fire. Let's groove. On va aller faire la fête. Allez, bonne soirée. Take a little time.